J'ai quasiment 20 ans d'expérience chez Warner Chappell. J'y suis rentré comme directeur artistique junior. Pour un éditeur, si vous prenez 100 œuvres éditées par Warner Chappell, vous avez 3 œuvres qui vont représenter 75% du chiffre.
Ah ouais.
Wow, okay.
Pourquoi ? Parce que les droits d'édition, ils sont générés pas seulement par le digital, mais ils sont générés par le digital, le live, la radio, la télé, etc. C'est quasiment 20% de nos revenus.
Ah ouais.
C'est les placements sur des films, des documentaires et des publicités. On a travaillé à la fabrication d'un petit livre qui s'appelle Mon premier Aya Nakamura, okay. Dans lequel c'est pour les enfants qui ont entre 1 et 2 ans. Et c'est un petit livre à puce et l'enfant met son doigt et au lieu que ça lui chante au clair de la lune, ça lui chante Pookie.
Monte le son, c'est le podcast des passionnés de musique. Bienvenue à tous dans cette nouvelle saison, c'est incroyable Dan, ça va ?
Incroyable, c'est la 8e, 9e saison.
Non, c'est la 6e. C'est la 6e
saison.
Eh, pas mal hein ?
On est bien, on est bien. Est-ce Mathieu, que c'est de la longévité ça ?
6 saisons. Longévité quand même.
6 saisons sur internet, ouais, c'est colossal.
Ouais, hein. Ouais. On est d'accord.
Pourvu que ça dure.
Mais oui. Bourdaz, cette année encore, j'ai envie de dire, c'est la continuité, on va solidifier les bases et en même temps on va essayer de recevoir des bêtes d'invités.
Et on commence très très fort.
Ouais. Avec
Mathieu Tessier.
Absolument, ça va Mathieu.
Bonjour Mathieu, bienvenue.
C'est pas du tout la pression, t'es impressionné. Non, en vrai, hyper intéressant. Parce que Mathieu, tu as un métier qu'on n'a encore jamais valorisé dans cette émission, dont on n'a encore jamais parlé vraiment. Autant on a reçu d'As des patrons de labels, on a reçu Césaire de Roche Music, on a reçu Marc Tessier du Croc, de Record Makers, on a parlé avec les gars Floral Records aussi, on a parlé de distribution avec les gens de Big Wax par exemple, voilà. Mais on n'a encore jamais parlé d'édition.
Ça on a parle... évoqué un petit peu...
Ouais, mais pas avec des professionnels qui font de l'édition en tout cas.
Ouais.
Mathieu, c'est ce que tu fais ?
C'est ce que je fais, tout à fait. Ouais, c'est vrai que c'est un métier qui est pas toujours bien connu. Et c'est vrai qu'on on médiatise plus les labels dans lesquels les artistes sont signés que les sociétés d'édition qui les éditent ou les coéditent ou les gèrent.
Et voilà. En parlant de sociétés d'édition, tu as cité celle pour laquelle tu travailles, qui est donc Warner Chappell. Warner Chappell, qui est une branche en fait de Warner Music, l'une des 3 majors, tu sais, les fameuses DAZ, Universal, Sony, Warner. Donc Warner Chappell Music France d'ailleurs, on précise. Et tu présides d'ailleurs, tu diriges la branche française donc, de Warner Chappell. Ça t'amène à travailler avec un énorme catalogue. Vous avez vraiment un très gros catalogue, à la fois à l'international, mais aussi évidemment spécifiquement sur la France. Un catalogue que tu as participé à le développer. Ça fait plus de 20 ans que tu travailles. C'est ça, à peu près autour de 20 ans avec Warner
Chappell. Presque 20 ans.
Presque 20 ans. Et tu as une grosse expérience dans le métier, on te connaît parce que notamment tu as réussi à amener des gens qui ont connu une grande popularité avec
j'ai
le
vu,
temps.
J'ai vu le pedigree, ouais. J'ai dit ok. Ouais. Tu es sur le premier, tu dis ok.
T'es l'un des premiers professionnels à beaucoup travailler avec Angèle par exemple.
Petit artiste indé.
Stromae aussi assez tôt.
Petit artiste.
Stromae plus récemment.
Ah oui, c'est avec Mozart plus tard, c'est
voilà,
vrai.
Voilà, ça c'est une signature plus récente. Ouais. Mais non, j'ai quasiment 20 ans d'expérience chez Warner Chappell. J'y suis rentré comme directeur artistique junior. J'avais 27 ans. Et plus pour développer des signatures, j'avais une culture plutôt alternative. Et donc c'était plus pour développer une branche d'artistes plus qui se développe par le live notamment. J'ai commencé assez tôt. Orelsan était déjà signé chez Warner Chappell quand je suis arrivé, mais on s'est assez rapidement côtoyé, on a travaillé ensemble au début. Et puis ensuite d'autres artistes pour lesquels souvent Warner Chappell a été le premier partenaire professionnel, c'est-à-dire que quand j'ai pris mes fonctions, c'était on était en plein dans la crise du disque. Et du coup les maisons de disques avait peut-être un peu plus de mal à prendre le temps de développer. Elles allaient un peu vite en radio et en mass média et donc les artistes qui avaient besoin d'un peu plus de temps, on a été pas mal d'éditeurs à leur proposer d'être un premier endroit pour affiner leur projet artistiquement, dans l'image, dans le son, commencer à se professionnaliser, parfois faire un premier EP Et ensuite, aller taper aux portes des maisons de disques en étant un peu plus aguerri. Et voilà, et donc ça a été le cas pour les artistes que tu as cités, mais aussi Zaoud Sagazan, avec qui j'ai travaillé depuis le début, Lily Wood and the Prick, duo français, Benjamin Clémentine. Voilà. Et
Il y en a d'autres. Bah, dans le catalogue, en tout cas, Warner Chappell, on peut citer en français, il y a Benjamin Biolay, Gaël Faye, Moziman, This Is, Adèle Castillon, Aya Nakamura, avec qui tu travailles aussi régulièrement. Vous avez re-signé d'ailleurs ensemble il y a quelques années, il me semble.
Tout à fait, il y a quelques mois.
On a
commencé à travailler ensemble en 2017, donc un an avant. Avant son grand succès, avant Dja Dja, juste avant la signature de son premier album, et on continue à bien s'entendre et on a renouvelé ce contrat en début d'année, ce qui évidemment m'a rendu très heureux.
J'imagine.
c'est intéressant parce que il y a quand même cette image autour de justement des grands labels qui font plus, tu le disais, avec la crise du disque, etc., qui prenaient plus le temps de faire du développement d'artistes. Et c'est vrai que quand on lit un peu tous les artistes avec lesquels tu as collaboré, tu es quand même à l'origine de pas mal de gros, gros, gros succès. Donc ça tend un petit peu justement à battre en brèche aussi ce cliché-là de la major, en fait, il faut que tu sois déjà établi et reconnu pour qu'elle t'accompagne, sinon c'est pas la peine. Je trouve ça intéressant, j'espère qu'on en parle.
Ouais, et puis en plus, ce truc, c'est vrai, on n'a pas forcément conscience. On se rend compte qu'une des grandes étapes dans le développement d'une carrière, c'est évidemment trouver une maison de disques, un label, un producteur, ou même d'ailleurs lorsqu'on s'autoproduit, que ça soit le distributeur, des choses comme ça. On pense pas que ça peut être l'un des premiers partenaires, l'éditeur, en réalité.
Ça, en tout cas, en France, quand je parle avec mes affiliés à travers le monde, c'est vrai que ça se passe pas dans tous les territoires. Mmh. Mais en France, on a cette tradition. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes, en pop notamment, qui ont eu pour premier partenaire un éditeur. Ça leur offre, je pense, un endroit peut-être un peu plus hermétique à la pression pour se trouver. Ça leur donne un peu plus de temps peut-être. Et voilà, il y a des labels qui font super bien le travail de développement et qui sont... attention, c'est pas dans 100% des cas. Hein, mais c'est vrai que beaucoup d'artistes majeurs de la pop française aujourd'hui ont eu... 12 mois, 15 mois, seul avec un manager, un éditeur, parfois un producteur de spectacle qui arrive tôt pour les artistes qui se développent par la scène. Et ensuite, la maison de disques arrive un petit peu plus tard et elle est souvent importante et indispensable après, dans un second temps. Mais c'est vrai que quand il s'agit de prendre le temps pour développer et de pas avoir d'urgence. Nous, en édition, on travaille sur le temps long, c'est-à-dire que les droits, entre le moment où ils sont générés et le moment où on va les toucher, il se passe du temps.
Tu parles d'argent, là.
Là, je parle d'argent. Ouais. Et du coup, mais je parle d'argent plus pour expliquer pourquoi, quand l'argent qu'on investit ne revient pas tout de suite, on est moins pressé de le voir revenir. On a un peu plus de temps devant nous et du coup, on a peut-être un peu moins de pression à court terme pour que ça marche tout de suite.
Rentable. Mais alors, dis-moi, Jamy, c'est quoi l'édition ?
Mais complètement, il faut peut-être qu'on revienne sur une base pour un peu débuter cette émission, c'est maison de disque, label, éditeur. Quelle est la différence entre ces trois gros noms qui reviennent souvent comme les partenaires principaux, disons, des artistes ?
Alors, maison de disque et label, je les mets dans la même famille, puisque ça concerne les droits master. En gros, moi je l'explique avec si on se place du point de vue de l'artiste. Un artiste qui serait auteur, compositeur, interprète, et qui se produirait sur scène, il va avoir trois partenaires principaux autour de lui. Le producteur de spectacle ou tourneur, qui va avoir une exclusivité sur ce que l'artiste va interpréter en live. Donc ça, c'est une économie assez simple à comprendre. C'est payer la création du spectacle et ensuite le vendre pour qu'il tourne et puis louer des salles, etc.
On a fait une émission là-dessus.
On a reçu notamment Simon Audet, Alice Pourchet.
Ouais. Ok, donc premier partenaire, producteur de spectacle. Deuxième, label ou maison de disque. Donc là, vous allez, en tant qu'artiste, signer une exclusivité pour ce que vous allez interpréter.
Okay.
Donc c'est la partie chanteur, chanteuse, ou alors musicien, musicienne, qui est concerné par ce contrat-là.
Donc, c'est-à-dire les interprètes qui viennent sur un morceau, que ce soit effectivement le chant, mais ça peut être aussi juste un guitariste, par exemple.
Exactement, ouais. Mais souvent, c'est des interprètes vocaux, donc des rappeurs, des chanteurs, des chanteuses. Et donc, vous signez un contrat, soit pour un nombre de projets, soit pour un nombre d'années, où vous donnez l'exclusivité de tout ce que vous allez interpréter à une structure qui va, en échange de quoi, distribuer vos morceaux, soit les produire quand il s'agit d'un contrat d'artiste, soit les marketer et les promouvoir quand il s'agit d'une licence, soit les distribuer, les mettre à dispo des plateformes quand il s'agit de, d'un contrat de distribution.
Et donc maison de disque sur le support. En fait, c'est ça, la maison de disque. Donc le tourneur, c'est la partie live. La maison de disque, c'est vraiment le support audio.
Tout à fait.
Et l'éditeur.
C'est le support audio, donc l'interprétation et voilà.
Parce que dans le milieu, en fait, c'est l'enregistrement. On appelle ça le phonogramme, c'est ça, historiquement.
Ouais, le master.
Le master.
Donc c'est la fixation de l'œuvre sur un support. Et l'éditeur, c'est une exclusivité pour ce que vous allez écrire et ce que vous allez composer. Donc c'est-à-dire que ce que je vais interpréter, mais c'est ce que je vais écrire et composer. Donc je vais donner une exclusivité sur ce que je vais écrire et composer pendant un certain nombre d'années ou de projets. Pareil, c'est comme des contrats de maison de disque, ça peut être en durée ou en nombre de projets. Et selon une clé de répartition qu'on définit au moment où on signe le contrat. C'est-à-dire que sur mes droits, il y a d'office une part éditoriale qui existe sur les droits. Cette part éditoriale, je peux la garder pour moi. Dans ces cas-là, je suis ce qu'on appelle éditeur à compte d'auteur. Ou alors, je vais voir un éditeur qui peut en prendre tout ou partie contre un travail et des investissements, l'argent.
Mais du coup, comment ça se fait que ce travail d'édition est séparé du travail de maison de disque? Alors que c'est dans l'intérêt de la maison de disque, finalement, de gérer les éditions de ces artistes, non? Ou...
Alors, il y a des labels indépendants qui sont aussi éditeurs et qui vont parfois exiger d'avoir les éditions pour travailler un projet en disant que ça coûte cher d'investir sur de la promo, du marketing et que les éditions sont un moyen pour certains labels indépendants de compenser leurs investissements réalisés pour le compte du droit master. Pourquoi c'est séparé? Déjà parce que tous les auteurs-compositeurs ne sont pas interprètes.
Okay.
Donc il y a des gens qui font de la musique, qui écrivent des paroles, qui sont juste ce qu'on appelle les beatmakers pour le rap, c'est-à-dire qu'ils produisent du contenu sonore, mais il leur faut un interprète, il leur faut un rappeur, il leur faut un chanteur pour interpréter ça. Et puis ensuite parce que ce sont des casquettes différentes, c'est-à-dire qu'un auteur-compositeur-interprète peut avoir envie d'écrire pour d'autres personnes.
D'accord.
Peut avoir envie d'écrire pour un film, peut avoir envie d'écrire pour d'autres contextes qui ne concernent pas
son contrat avec la major, enfin la major avec la maison de disque.
Tout à fait. Et enfin, pour terminer, parce que les droits sont pas les mêmes. C'est-à-dire que en fait, quand vous écrivez ou vous composez des œuvres, vous allez avoir des droits qui sont liés au live. Sur chaque billet de concert, il y a un petit montant qui va, via la SACEM, rémunérer les gens qui ont écrit et composé les œuvres qui sont chantées sur scène. Vous allez avoir des droits en radio et en télé. C'est-à-dire que chaque année, les chaînes de radio et de télé vont discuter avec la SACEM d'un montant pour venir compenser les œuvres, pour venir rémunérer les œuvres qui sont diffusées sur leurs antennes. Vous allez avoir des droits sur le stream. Sur chaque stream, il y a un montant qui est là pour rémunérer les interprètes. Il y a un montant qui est là pour rémunérer les gens qui ont écrit les chansons, qui encore une fois ne sont pas toujours les interprètes, donc il faut bien qu'ils vivent. Et puis après, il y a d'autres types de droits. Il y a la diffusion de musique dans des lieux publics ou privés. Et enfin, il y a d'autres droits directs, qui sont les droits de synchronisation.
Oui, synchro, oui.
Et
on le rappelle, c'est le fait d'avoir une musique dans un film, une publicité, une série, etc.
Tout à fait. Voilà. Et donc, tous ces droits-là, vous avez besoin de quelqu'un pour déposer correctement votre œuvre, défendre vos intérêts, aller collecter les droits et les répartir. Et ça, c'est le rôle de l'éditeur. Donc,
mais est-ce que l'éditeur, il peut, par exemple, puisqu'il dispose des droits
sur la composition ou les paroles. Est-ce qu'il peut, lui, décider de filer certaines paroles à d'autres artistes dans d'autres pays de lui-même, c'est-à-dire sans qu'il y ait forcément une volonté de l'auteur initial de dire « Ah, j'aimerais bien qu'on place une chanson de mon catalogue en Indonésie. » Est-ce que l'éditeur, lui, peut dire bah, « Moi, je la place en Indonésie et t'as pas grand-chose à dire. » Est-ce que quand même l'auteur reste maître de son... Alors, on attaque peut-être un peu fort tout de suite.
C'est intéressant. Il y a ce qu'on appelle le droit moral, qui est extrêmement fort, notamment en France, plus fort que partout ailleurs. Mmh. Et le droit moral, on est obligé de l'interroger. C'est-à-dire qu'un éditeur ne peut évidemment pas décider que une partie d'une œuvre, hein, des paroles ou même une œuvre entière soit associée avec des images, soit traduite dans telle langue. On ne fait rien sans le consentement des auteurs-compositeurs, sauf dans certains cas, dans le cas de la cover par exemple, ou si vous réalisez une reprise complètement fidèle d'une œuvre. Les accords n'ont pas changé, la mélodie ne change pas, la partition n'est pas touchée. Là, vous pouvez faire une cover sans demander l'accord ni de l'éditeur, ni des créateurs originaux. Vous pouvez demain sortir un album de reprise de Michael Jackson, si elles sont fidèles, personne ne vous en tiendra à rigueur.
Par contre, évidemment, ça générera de l'argent pour les auteurs, les compositeurs qui sont à l'origine
tout
du
à
morceau
fait.
Que l'on
mais
reprend.
Ça veut dire que Michael Jackson, il va avoir du mal à s'opposer, mais les représentants, les ayants droit de Michael Jackson ne peuvent pas s'opposer au fait que, par exemple, M. Pokora décide de faire un album de reprise de Michael Jackson.
Impossible de s'y opposer. Par contre, sous réserve que l'œuvre ne soit pas altérée, qu'elle reste fidèle, c'est-à-dire que ce soit une vraie cover. Qu'il n'y ait pas de changement d'accord, qu'il n'y ait pas de libre réinterprétation, de changement de parole, etc. Sous réserve, sous réserve de ça, et ensuite sous réserve que les ayants droit soient rémunérés. C'est-à-dire que l'œuvre, elle est déclarée correctement.
C'est
et du
base.
Coup, tous les disques qui se vendent vont générer des droits pour les créateurs originaux de l'œuvre.
C'est marrant, j'aurais pensé que c'était le contraire. Tu vois, que si tu fais un truc qui est vraiment conforme, copié-collé presque à l'original, bah là, t'es pas trop le droit. Mais que par contre, si tu fais des reprises à la Julien Doré, tu vois, un petit peu machin, bon là, on dit, bah, c'est pas grave, tu vois, c'est licence artistique, ouais, ça va, c'est cool, tu vois.
En tout cas, c'est intéressant, ça, c'est un truc, il faut toujours le rappeler que la musique, elle est dans le droit, elle est divisée globalement entre effectivement enregistrement l'édition, la composition, les paroles, etc. Ça se retrouve dans le droit, en fait, les droits d'auteur et le droit voisin. Et c'est vrai qu'on rappelle pas assez souvent qu'il y a le droit patrimonial, c'est-à-dire le fait qu'on puisse générer de l'argent autour de ces œuvres, etc., qu'on soit interprète, quand c'est l'enregistrement qu'on diffuse ou qu'on soit l'auteur, par exemple. Mais il y a aussi le droit moral dans les deux cas, que ce soit l'enregistrement lui-même ou la composition. On a le droit de dire, par exemple, telle personne a utilisé la telle meeting politique. Moi, ça ne me convient pas. Ça, on a le droit, et légalement...
C'est trop tard, en fait, c'est ça qui est ouf.
C'est pour une future utilisation, je pense que tu peux condamner des gens pour ça, je sais pas exactement comment ça se passe.
Alors, je suis pas juriste, j'avoue que j'ai un cas récemment qui est arrivé sur...
Tu peux nous dire concrètement ?
Non, c'est confidentiel, mais j'ai effectivement une autrice, compositrice, interprète qui était pas contente d'entendre son œuvre dans un meeting politique, et justement, j'ai demandé à mon service juridique de se pencher dessus, pour savoir comment on peut... Est-ce qu'on peut s'y opposer et comment et sur quelle base et voilà, donc j'ai pas encore toutes les données techniques pour vous répondre sur ça.
Tiens, ça peut nous amener pour comprendre un peu le métier d'éditeur. Est-ce que justement votre rôle est aussi de faire une espèce de veille sur l'utilisation des œuvres déposées chez vous, en tout cas que vous représentez?
Alors oui, c'est pas une obligation, mais ça fait partie de nos missions. C'est pas une obligation parce que c'est trop compliqué de veiller sur toutes les œuvres et de s'assurer que elles ne sont pas reprises ou samplées ou voilà. On essaye le plus possible d'assurer une veille sur l'entièreté des œuvres qu'on contrôle, mais voilà, ça fait pas pour autant partie de nos obligations.
Donc ça veut dire que pour les gens qui reprennent ces œuvres sans autorisation, c'est un peu la roulette, quoi. C'est-à-dire, si le morceau pète pas, t'as quand même des chances de pas te faire griller et de pas avoir trop de soucis parce que ça arrivera pas sous le radar de...
Après, ça, c'est la norme, pareil pour le sampling, etc. Tant que t'as pas été exposé, que t'as pas généré d'argent, personne va venir t'embêter. C'est quand il y a des sous en jeu, en général, que ça va commencer à questionner, quoi. Mais d'accord avec ça, Mathieu?
Ouais, bien sûr. disons que si personne n'entend ton œuvre, il y a peu de chances que ça clignote. Mais, à la fois, on essaye de veiller à ce qu'il n'y ait pas des utilisations non déclarées, etc. Et à la fois, on encourage aussi des utilisations, parce que pour nous qui contrôlons des œuvres, on a aussi tout un catalogue. Chez Warner Chappell, c'est les œuvres de Barbara, certaines œuvres de Brel, certaines œuvres de Gainsbourg, Brassens, Renaud, etc. Donc, tous ces artistes-là, pour ceux qui sont encore là et leurs ayants droit, souvent ont envie que les œuvres vivent. Et une manière de faire vivre les œuvres, c'est qu'elles soient samplées, c'est qu'elles soient reprises, c'est qu'elles soient
synchronisées avec des séries.
Tout à fait.
Donc, on fait appel à vous pour ça. C'est-à-dire, on dit voilà, moi j'ai composé quelque chose, il y a un interprète, ou moi d'ailleurs, en tant qu'interprète, j'ai déjà fait un enregistrement, je suis en maison de disque ou je m'autoproduis, peu importe. J'ai déposé mon œuvre à la SACEM, parce que c'est la base quand même lorsqu'on est auteur-compositeur. C'est avant d'aller voir un éditeur ou quoi que ce soit, je dis à la SACEM, voilà, j'ai créé une œuvre, je vous la dépose. De façon à pouvoir récolter ensuite le fruit en gros de ce travail lorsqu'il est diffusé, etc. En deuxième étape, il y a la possibilité d'aller voir un éditeur. On verra d'ailleurs si on peut se passer d'un éditeur ou pas. Mm-hmm. Mais déjà, qu'est-ce que peut apporter l'éditeur? Et là justement, on va lui dire, valorise mon œuvre, c'est ça un peu l'idée?
C'est pas exactement ça. C'est le travail de l'éditeur, c'est d'abord de faire en sorte que cette œuvre elle vive et qu'elle existe dans sa version première. Là, ce que je vous disais, c'est que une fois que l'œuvre elle a vécu sa vie, qu'elle est rentrée dans les foyers,
souvent
etc.
Souvent à travers l'interprétation.
Voilà, qu'elle a été diffusée en radio, sur scène, etc. L'idée, c'est d'aller lui donner une deuxième, une troisième vie après, de pas laisser les œuvres reposer, mais de continuer de les exploiter, de les dynamiser pour qu'elles aient. Donc, je dirais pas qu'on vient voir un éditeur pour ça. Mais par contre, on attend d'un éditeur
qui fasse ça,
qui soit actif sur les œuvres qu'on lui a confiées.
Mais du coup, forcément, la question sous-jacente, quand on signe avec un éditeur, c'est pour combien de temps?
Alors, quand on signe avec un éditeur, c'est pour une durée d'exclusivité en général.
J'avais lu plus l'infini, c'est pas.
Alors, la durée d'exclusivité, elle peut pas durer plus de 5 ans. C'est-à-dire que en gros, on signe un contrat de préférence et ce contrat de préférence, il peut pas excéder 5 ans. Donc, tout ce que vous allez créer pendant les 5 prochaines années va être édité pleinement ou coédité par l'éditeur avec lequel vous contractualisez.
Et donc tous les 5 ans, il faut renouveler.
Alors après, les œuvres que vous avez créées pendant le cadre de cette exclusivité, ces œuvres-là, l'éditeur, suivant le contrat, mais en tout cas si c'est une édition pleine, les droits durent pendant 70 ans après votre mort.
Oui, c'était ça qui me semblait. Ouais. Voilà. 70 ans post-mortem.
Tout à fait.
En fait, déjà, il
plus
faut...
plus l'infini, quoi, quelque part.
Pour comprendre un peu ces trucs de contrat, etc., peut-être qu'on peut déjà... Est-ce que lorsqu'on va voir un éditeur, on va lui demander de défendre tout son catalogue, ou ça peut être juste un morceau, une composition précise? On se met d'accord là-dessus? Il y a différentes possibilités?
On peut tout faire. Okay. On peut donner une œuvre à un éditeur. On peut donner un album à un éditeur. Okay. On peut limiter le contrat à ce qu'on va interpréter soi-même. On peut limiter à ce qu'on ne va pas interpréter, ce qu'on va faire uniquement pour les autres. Et voilà, dans la plupart des cas, quand on est là au début, en tout cas, on va signer un contrat pour tout ce qui va être créé pendant soit un nombre d'années, soit un nombre de projets.
Ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis là, c'est donc il y a la relation qui elle est contractualisée sur X années, mais après les droits sur les œuvres qui eux sont donc 70 ans après la mort de l'artiste. Pour qu'une chanson, un titre passe dans le domaine public, c'est quoi le...
C'est basé
là-dessus.
C'est ça, tout à fait. Okay. Alors, oui, après...
On rappelle peut-être juste tomber dans le domaine public, et pourquoi vous... Enfin, tu peux nous rappeler ça?
Ouais, une fois que c'est dans le domaine public, ça veut dire que n'importe qui peut prendre en tout cas cette œuvre et en faire quelque chose.
Sans payer de droit
et sans interroger le droit moral. Par contre, vous allez, si vous faites un arrangement sur une œuvre du domaine public, ça va être soumis à une commission à la SACEM qui va l'étudier, qui va valider qu'il y a bien un apport créatif de votre part. Et ensuite, une grosse partie des droits de cette nouvelle version va vous revenir à vous, comme si vous l'aviez créé vous. D'accord. Et une petite partie va aller financer le domaine public. Voilà, en gros, donc c'est pas seulement les droits d'édition qui vont porter sur cette durée. C'est que une fois que cette durée est passée, n'importe qui peut prendre votre œuvre et en faire quelque chose et s'approprier la rémunération.
Oui, d'accord.
Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pendant toute cette durée de protection des droits, qui est certes très longue, vous gardez votre droit d'auteur. C'est-à-dire que ça ne concerne que la part éditoriale qui est afférente à vos droits d'auteur. Les droits d'auteur, on n'y touche pas. Aujourd'hui, les droits d'auteur, ils représentent sur une œuvre à peu près 60% des droits. C'est-à-dire que d'office, si vous cédez 100% de vos éditions, vous garderez 60% des droits pour vous et vous en céderez 40%. Pourquoi c'est approximatif ce que je vous dis ? Parce que à la SACEM, il y a des droits d'exécution publique et des droits mécaniques, droits de reproduction mécanique. C'est un peu technique, là, ce passage-là. Après, j'essaie. Mais en gros, il y a une partie des droits qui sur lesquels c'est un 50-50 entre le droit d'auteur et entre la part auteur et la part éditoriale, et d'autres droits sur lesquels c'est un 2/3 pour l'auteur-compositeur et 1/3 pour l'éditeur. Donc en moyenne, quand on calcule sur la plupart des œuvres contemporaines qu'on édite, c'est à peu près un 60-40 entre l'auteur-compositeur et l'éditeur. Mais aujourd'hui, on fait beaucoup de contrats de coédition. Ça veut dire que l'artiste, il arrive, il va avoir velléité à créer sa société et du coup, à partager le droit éditorial. Donc nous, on vient coéditer l'œuvre, on va assurer tout le travail administratif, toute la protection juridique. Quelque part, il est coéditeur passif.
Okay.
Et du coup, il va s'adosser à une structure qui va prendre le risque financier, lui verser des avances, l'aider à créer cette structure, assurer les dépôts, assurer la protection juridique, assurer les exploitations, etc. Et quelque part, passivement, il va devenir partiellement éditeur de l'œuvre. Du coup, si vous êtes sur une coédition à 50-50, c'est plus un 60-40, c'est un 80-20. Donc certes, vous avez des droits qui durent longtemps, mais de toute façon, vous avez besoin de continuer de les collecter, ces droits. Il faut aller les chercher dans le monde entier. Il faut quelqu'un pour traiter les demandes de synchro, aller chercher des exploitations, travailler pour qu'elles soient reprises, ces œuvres, etc. Contre une partie des droits que vous cédez à vie, mais vous en gardez une grande partie. Et de toute façon, cette partie, elle est toujours majoritaire à vie, avant que ça tombe dans le domaine public.
C'est quoi l'intérêt pour un éditeur de se mettre en coédition avec un artiste qui, du coup, va être éditeur passif?
Il prendra plus d'argent aux dépens de l'éditeur, en théorie.
Bien sûr, mais c'est une question de négociation. C'est une question de négociation et c'est une question de moment auquel on se positionne. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus affaire à des artistes qui sont aussi des entrepreneurs.
Et les intérêts, chacun essaie de défendre ses intérêts. L'artiste va dire non, moi, je veux garder une part, etc.
Exactement, c'est une négociation. Voilà, tout dépend en fait de l'état d'esprit dans lequel l'artiste est, son entourage, sa volonté de se structurer ou pas, etc. Mais c'est...
Pour résumer un tout petit peu nos discussions, parce qu'on est rentré déjà dans des trucs assez profonds dès le début, par exemple sur l'idée effectivement que ça tombe dans le domaine public, etc. Rappelons bien qu'on parle des œuvres. Là, on parle d'édition, donc c'est les œuvres. C'est-à-dire que c'est pas un morceau, par exemple, qui a été enregistré, que je peux ensuite diffuser comme je veux, etc. C'est l'œuvre en elle-même que je peux reprendre à ma manière, etc. Et ça, gratuitement. C'est déjà un petit point pour rappeler. Quoi,
vraiment. Oui, important. Important,
c'est hyper important. Parce que le sampling, c'est pas encore... Là, c'est l'enregistrement, par exemple, qu'on sample en général. C'est pas la création.
Oui, mais
c'est pas l'œuvre. Tu vois,
quand les mecs dans le hip-hop, justement, à force de se faire tabasser par le sample, ils ont dit, bon, on va prendre que du classique. Ouais. Tu vois, le piano-violon, là,
peuvent reprendre... Il faut qu'ils rejouent l'œuvre. Il faut qu'ils la fassent rejouer. Ils peuvent pas prendre une interprétation, un enregistrement déjà fait, elle semblait sans problème.
Parce que l'enregistrement, du coup, ça serait les droits de l'orchestre qui l'a rejoué.
Exactement.
Okay.
Toujours rappeler ça, c'est hyper important pour bien comprendre.
C'est-à-dire que moi, j'emploie le terme sample. Nous, on s'occupe de ce qu'on appelle des samples éditoriaux. Un sample éditorial, c'est quoi? C'est une petite partie d'une œuvre, une mélodie, qui va être rejouée. Ou rechanter, et pour nous c'est quand même une partie de notre œuvre, c'est-à-dire que c'est une partie de l'œuvre de l'auteur-compositeur et donc une partie de l'œuvre qu'on édite. Donc
il y a des droits là-dessus aussi.
Voilà.
Mais quand c'est tombé dans le domaine public, non, effectivement.
Mais il y avait des histoires comme ça avec je sais pas, une Shakira qui à un moment donné fredonne un air et je sais pas moi, c'est la patte patrouille et du coup.
Ah bah là oui, effectivement, elle doit de l'argent. C'est, okay. C'est la base.
Donc ça, c'est les éditeurs qui vont
négocier okay. les conditions, enfin on va dire la place que va prendre le sample qui est fredonné dans le
sens éditorial. Voilà,
le sample éditorial, voilà, c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de droits. Et
ensuite, pour pareil reprendre un peu, parce qu'on a évoqué la SACEM, par exemple, quand on ne connaît pas, on ne comprend pas forcément l'interaction qu'il peut y avoir entre un éditeur et la SACEM. Reprenons un peu les bases, c'est-à-dire qu'un artiste, demain, il se lance dans une carrière. On disait, l'un des premiers réflexes, normalement, lorsque tu as composé, ou que tu as écrit les paroles, etc., c'est d'aller déposer cette œuvre à la SACEM pour prouver que tu en es en gros l'auteur, quoi, pour faire simple. Ensuite, si je ne dis pas de bêtises, tu me corriges Mathieu, c'est toi l'expert. La SACEM, son but, en tant qu'organisme de gestion collective, c'est justement d'assurer à l'artiste que lorsque son œuvre est diffusée, utilisée, etc., de l'argent va lui revenir. On est d'accord là-dessus ? Et donc elle collecte auprès des radios, machin, etc., pour ensuite reverser aux gens qui ont adhéré à la SACEM, entre guillemets, qui ont déposé des offres chez la SACEM, en échange d'ailleurs d'un petit billet. Lorsque tu t'inscris à la SACEM, il faut quand même payer, je crois, je sais plus si c'est annuel,
une cotisation
quoi, exactement. Ouais. Pour être sociétaire, c'est ça le principe ?
Ouais, c'est une cotisation pour être sociétaire, et c'est pas la seule rémunération de la SACEM, c'est une cotisation quand tu t'inscris, et ensuite une commission sur les droits collectés, qui varie suivant le type de droit. On est passé à un taux très compétitif sur le digital qui est de 7%.
La SACEM prend 7% à
voilà.
chaque fois.
Okay. Elle prend 7% pour ses frais de fonctionnement, pour voilà, ses locaux.
Soyez en passant, d'ailleurs, c'est un organisme qui, à ma connaissance, ne dépend pas, par exemple, de subventions publiques, etc., qui est complètement autonome dans son financement et qui est complètement à l'équilibre, d'ailleurs.
Tout à fait, ouais. Tout à fait. Mais pour revenir sur la SACEM, il faut revenir si on revient à la création, ça va être les 175 ans de la SACEM. Comment elle a été créée, la SACEM? C'est des gens qui avaient écrit des paroles et une composition pour une artiste, et cet artiste se produisait dans un bar, et ils sont allés prendre un verre dans ce bar, et ils se sont rendus compte que le bar était plein parce qu'il y avait des chansons qui étaient chantées. Et ils se sont dit, ça serait juste que sur chaque verre qui est vendu, il y a un petit peu, tout petit pourcentage qui viennent rémunérer les gens qui ont créé les œuvres, grâce auxquels c'est la bonne ambiance dans cet endroit. Et voilà. Et donc, ils se sont mis ensemble en se disant, on va créer un collectif pour défendre nos droits et pour commencer à être payés, nous, qui créons des chansons, grâce auxquelles, voilà, il se passe des choses, quoi. Donc, c'est ça l'origine. C'est un rassemblement d'auteurs et de compositeurs. Et le E de SACEM, c'est éditeur. Donc, les éditeurs sont membres aussi de la SACEM. Et voilà, tous ensemble, en fait, on va collecter les droits générés.
Alors, justement, on peut se dire, attends, je comprends que donc, la SACEM s'occupe de collecter les droits. Pourquoi j'aurais besoin d'un éditeur pour m'aider aussi à collecter ces droits alors que la SACEM travaille déjà? Même si on a bien compris qu'en fait, l'éditeur fait d'autres choses aussi. Mais spécifiquement sur la collecte des droits, pourquoi un éditeur est pertinent s'il y a déjà la SACEM?
Alors, déjà, c'est très technique de faire remonter des droits. C'est-à-dire que si vous comparez avec la distribution, vous avez une œuvre, si vous n'êtes pas distribué, vous allez chez un agrégateur pour mettre votre
type DistroKid, Musician, etc.
Voilà, votre création à dispo du public. C'est assez simple au final. C'est-à-dire que Spotify ou Deezer ou Apple Music mettent à dispo votre musique. Ensuite, il y a un tarif au clic en fonction du territoire, etc. Et tout ça, ça remonte assez facilement, puisque c'est 3, 4, 5 sociétés qui distribuent des masters. Chaque titre a un code. Et du coup, les droits remontent assez facilement. En édition...
Pour le physique, c'est facile aussi. Chez un disquaire, il y a tant d'unités qu'on a vendues, machin, etc. On comprend à peu près.
C'est assez simple. En édition, c'est extrêmement complexe. Quand je dis en édition, c'est en droit d'auteur. En droit d'auteur, c'est extrêmement complexe. Pourquoi ? Parce que c'est des centaines de codes différents pour les diffusions télé, quel tel film publicitaire va avoir tel code, tel. Il y a un énorme travail de référencement et ce travail il se décuple quand votre œuvre elle se diffuse à l'étranger. C'est-à-dire que à l'étranger, il y a une SACEM en Allemagne qui est la GEMA, et puis il y en a une autre dans chaque territoire à travers le monde. Et tout ça, ça entraîne des ramifications qui sont très compliquées. Les droits sur le live, par exemple, ça se fait sur la base de déclarations. C'est-à-dire que vous allez faire un concert dans un festival en Angleterre, vous allez remplir un formulaire en déclarant quelles œuvres vous avez chantées ce soir-là, pour combien de minutes, etc.
Ce qui est équivalent pour un DJ, par exemple, qui normalement, légalement, doit, à la fin de la soirée, repartir avec une fiche où il a dit « j'ai diffusé tel morceau, tel morceau, tel morceau ».
Mais donc c'est après, c'est pas avant.
Non, pas avant, oui, bien sûr, c'est de dire j'ai effectivement diffusé ou joué, etc., ces choses. Pardon. Oui.
Exactement. Mais donc, nous, quand on dépose une œuvre, tu disais, le premier réflexe des auteurs-compositeurs, c'est d'aller déposer leur œuvre à la SACEM. S'ils vont voir rapidement un éditeur, ils vont s'appuyer sur leur éditeur pour le faire pour eux.
Ok. Est-ce qu'on peut bien déposer ou mal déposer une œuvre, c'est possible?
En tout cas, non, c'est pas pour ça. Mais déjà, on peut mal être défendu dans le dépôt de l'œuvre. C'est-à-dire que la première chose que va faire l'éditeur, c'est de faire en sorte que votre apport créatif soit correctement valorisé. On va questionner l'artiste en disant « Ok, t'as fait quoi dans le studio ?»« Qui a trouvé cette mélodie-là » etc.
On revient à nos débats, pardon.
Et donc la première chose, c'est de défendre les droits de l'auteur-compositeur, en tout cas dans la valorisation de son apport créatif.
Moment de la création, c'est ça qui est...
Juste après la création, parce que parfois on va être dans le studio, mais souvent, souvent on reçoit l'œuvre le lendemain matin, parce que les sessions studio ont parfois lieu tard le soir, et on n'est pas toujours présent jusqu'au bout. Mais ensuite, le lendemain matin, on va recevoir l'œuvre, et puis ensuite on va aider l'auteur-compositeur à valoriser son travail et son apport créatif.
Je t'interromps d'ailleurs juste pour rappeler, parce qu'on a cité Aya Nakamura, Zao Tsagazan, etc. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que l'éditeur, il peut défendre des auteurs-compositeurs qui sont très réputés, mais en fait, c'est souvent comme les interprètes qui sont mis dans la lumière. Et donc, en réalité, vous allez travailler beaucoup, avec beaucoup d'auteurs-compositeurs qui, eux, en fait, sont globalement des gens de studio, etc., qu'on ne connaît pas. Et pour qui il est certainement un peu plus difficile de défendre son travail que quand t'es un interprète très, très visible, j'imagine.
Tout à fait. Disons que les auteurs-compositeurs qui ne sont pas interprètes, qui ne sont pas artistes, souvent, ils ont un seul partenaire, et c'est leur éditeur. Donc quand on est artiste, je vous ai décrit avant les différents partenaires qu'il y avait autour de l'artiste. Souvent, le seul partenaire du compositeur ou de l'auteur qui n'est pas lui-même artiste, c'est l'éditeur. Donc c'est l'éditeur qui va lui proposer des opportunités de composer. Déjà, tel artiste cherche des chansons.
Donc il y a aussi cette... partie mise en relation.
Je te prends un exemple concret. Vous travaillez avec quelqu'un qu'on a reçu qui s'appelle Max Baby.
Ouais.
Max Baby, c'est l'un des co-compositeurs du morceau Mélodrama de DC et Théodora, qui est peut-être le succès.
2026, hein, quand même.
Voilà, de l'année. Est-ce que vous avez été impliqué là-dedans, par exemple?
Alors, sur Mélodrama, on travaille avec DC aussi. Donc on est éditeur de DC's qui nous a amené une composition déjà avancée et en fait il organise un séminaire dans le sud et on lui a soumis le profil de Max Baby. Donc on a envoyé Max Baby dans le sud travailler avec DC's et ils se sont penchés sur des nouvelles compositions. Ils sont partis de zéro sur des nouvelles choses en studio et ils ont repris cette chanson sur laquelle DC n'était pas entièrement satisfait. Il avait l'impression qu'il manquait encore des choses. Et du coup, c'est Max qui a trouvé notamment le petit hook qui répond à la voix sur le refrain, un petit hook de synthé qui est très important et puis qui a contribué à façonner un petit peu le son, en tout cas l'emmener plus loin, puisque la composition était déjà bien avancée. Mais par exemple, sur ce cas précis, c'est c'est nous qui avons fait la mise en relation.
Il n'y a pas de problème, parce que c'est 100% vos artistes, en fait.
Oui, mais on va le faire. Il se trouve que là, DC's était chez nous, mais on va être au courant d'autres artistes qui font des albums qui sont pas signés chez nous parce que des maisons de disques nous disent que tel artiste va rentrer en studio à tel moment, etc. Et donc évidemment notre travail se limite pas à pousser les artistes qu'on représente sur uniquement sur les sur les artistes qui sont aussi signés chez nous. Mais voilà, mais si on revient un petit peu en arrière, on va participer en tout cas à la valorisation des clés de répartition de l'apport créatif du compositeur ou de l'artiste qu'on représente. On va lui donner les moyens de créer. On va lui verser des avances qui vont...
Donc comme le producteur, comme la maison de disques, le label, on fonctionne aussi avec un système d'avance. C'est-à-dire, on pense que tu vas générer de l'argent avec nous, machin, etc. C'est pas de l'argent qu'on te prête, entre guillemets, ensuite... rappelle-nous le principe de l'avance, pardon.
Ouais, bah c'est je vous ai expliqué les clés de répartition, environ 60-40 entre un auteur-compositeur et un éditeur, si l'éditeur l'édite pleinement. Ouais. Vous allez verser des avances que vous allez recouper sur 60% des droits. C'est-à-dire que on va signer ce qu'on appelle une cession de créance, qui fait que la SACEM va nous verser à nous les droits jusqu'à recoupement de ce qu'on a versé.
C'est-à-dire que c'est pas lui qui le touche, mais en fait, comme vous lui avez déjà avancé l'argent d'un coup pour qu'il puisse se développer ou je ne sais quoi, etc., pas attendre à chaque fois, etc.
Attends, ça veut dire qu'en tant qu'artiste, interprète, je peux avoir déjà une avance par la maison de disques pour m'aider à produire ma musique et une avance par mon éditeur.
Tout à fait.
Pour m'aider à produire ma musique.
Tout à fait. Et souvent, dans beaucoup de cas, chez nous en tout cas, l'avance de l'éditeur, c'est le premier argent que reçoit l'artiste. C'est-à-dire que, en fait, c'est un moyen pour l'artiste de ne pas avoir à aller servir des verres dans un bar le soir et de pouvoir se contenter, se concentrer sur sa création. Bon, déjà, première chose, permettre à l'artiste d'avoir un contexte favorable pour créer. Deuxième chose, l'aider techniquement à mieux créer. Donc on va payer du matériel, on a des studios dans les locaux qu'on met à disposition, on va payer des séances de studio, etc. pour que l'artiste il ait les moyens techniques de créer.
Donc là, c'est presque du management, en fait.
Et surtout, normalement, c'est lié au master aussi, le fait d'enregistrer dans un studio, etc. Donc les rôles sont flous aussi, parfois ?
Oui, parce qu'aujourd'hui, la production fait partie de la composition. Quelque part, la production fait partie de la composition, ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est plus dans une époque où l'éditeur faisait... Moi, quand j'ai commencé, on travaillait sur des guitares-voix ou des pianos-voix. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui nous donnaient des pianos-voix ou des guitares-voix. On les challengeait sur le texte, sur les accords, etc. Et ensuite, on prenait ces maquettes pianos-voix ou guitares-voix qu'on essayait de placer chez des artistes-interprètes. Et ensuite, c'était une maison de disques qui produisait l'artiste-interprète, qui allait financer un studio, un grand enregistrement. Et voilà. Aujourd'hui, dans votre chambre, vous produisez des titres qui sont capables d'aller à la radio.
C'est-à-dire qu'on sépare beaucoup moins le moment de la composition et de la production qui sont liés. Effectivement, on le voit avec les moyens techniques d'aujourd'hui, le numérique, où en fait on pré-produit, on pré-mixe en général en composant.
Exactement, exactement. Et je dirais même que l'identité sonore d'un titre fait partie de la composition, c'est-à-dire fait partie de son ADN. Moi, je suis frappé sur les festivals, par exemple, quand au bout de 5 secondes de son, les gens, le public reconnaît immédiatement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une signature sonore.
C'est pas la note en elle-même, c'est comment elle est travaillée.
C'est les deux, en tout cas, c'est les deux. Donc voilà. Donc en gros, on va ensuite payer du matériel pour faire en sorte que l'artiste puisse vraiment s'enregistrer et pas faire forcément son album définitif, mais au moins s'enregistrer dans de bonnes conditions, avoir vraiment une qualité sonore qui soit parfaite et surtout dans le cas où ce qu'il fait dans sa chambre a la bonne intention et qu'on souhaite le garder, techniquement ça doit être suffisamment pro pour qu'on puisse le garder. Donc ça c'est la deuxième chose.
Vous faites du conseils, de la DA, genre vous dites à l'artiste, ouais, tu devrais plutôt le faire comme ci, comme ça. Parce que là, je suis en train de me dire, mais alors, à quoi sert le manager?
Alors, c'est ça la question. Là, ce serait plus le producteur, d'ailleurs, qui accompagnerait en studio pour lui dire, fais ça, fais comme ça. Peut-être que tu peux, tu vois, le directeur artistique en maison de disque.
À partir du moment où l'éditeur, il t'achète du matos et il croit en toi, je pense qu'il a aussi un droit de regard sur
Mathieu va nous dire, effectivement.
Ouais, moi, je dirais pas du tout un droit de regard. Je pense que c'est pas.
Non, mais
c'est
du conseil.
C'est pas approprié. C'est plutôt, en fait, on a une ressource. Pour l'artiste et c'est une confiance qui va arriver petit à petit qu'on va gagner. C'est toujours l'artiste qui décide, jamais on va être en conflit ou en tout cas on va lui imposer quelque chose, mais par contre il va venir chercher chez nous une expertise, un retour. En fait, quand vous passez une nuit en studio entière, à la fin de la nuit vous savez plus
La tête dans le guidon.
Et donc il y a besoin de quelqu'un le matin qui a les oreilles fraîches, qui a pas passé des heures à entendre le même kick en boucle, qui va pouvoir vous donner un avis et vous challenger aussi. On fait beaucoup ça. On challenge les gens pour que, en tout cas les artistes, pour que ils réécrivent des parties, ils aillent plus loin.
Ah, donc il y a quand même un petit d'accord. Ok. T'appelles ça challenge, mais bon, globalement c'est.
Et d'ailleurs, vous conseillez, vous challengez vraiment dans le sens de la composition ou de la production? Alors, j'ai bien compris que ça s'intriquait. C'est-à-dire qu'à l'ère du sound design, on sait que la composition va se démarquer aussi par la manière dont on travaille les sons en réalité. Mais je vais le prendre autrement plutôt. Je vais vous poser une question. Est-ce que l'éditeur, il reste aussi pertinent qu'avant pour travailler une composition quand on sait que la valeur aussi de la composition, c'est comment elle va être produite? Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être une suite d'accords qu'on a vu 3 milliards de fois. Et en fait, quand vous allez essayer de vendre la composition où c'est juste une suite d'accords qu'on a vu 3 milliards de fois, c'est un peu plus difficile. Alors qu'en fait, la qualité du truc, c'est pas tant la suite d'accords, c'est comment elle a été produite, cette suite d'accords.
La texture, les choses comme ça.
Est-ce que ça veut dire que donc, c'est plus difficile à défendre en tant qu'éditeur, cette nouvelle façon de travailler, la domination du sound design avec des compositions peut-être moins, tu vois, développées sur 10 minutes, que tu vois, que dans le rock alternatif d'une époque, ou tu vois, ou de, je sais pas.
Rock prog, une intro de 7 minutes et.
Voilà. Bah, en fait, la production fait partie de la composition. C'est-à-dire que je vois peu de chansons qui m'arrivent dans une version initiale qui ne soit pas proche de sa version finale.
Okay. Ça change pas tout.
Ça change beaucoup et effectivement, pour ce qui est des retours, nos retours vont être plus sur la composition et l'écriture que sur la production. C'est-à-dire que souvent, moi je vais te dire, je sais qu'après, bien produire une chanson, c'est pas si difficile que ça, si la chanson est bien.
Donc si t'as les bonnes personnes, de toute façon.
Ouais, en fait, avec des moyens et du temps, on arrive toujours à parfaire une production. En revanche, améliorer un texte, être sûr d'avoir le bon refrain, et est-ce que ce refrain là c'est le bon refrain, est-ce qui ça c'est pas la production qui permet ça. Donc on va plutôt challenger l'écriture et la composition en se disant qu'après la production ça peut se parfaire, mais en réalité dès le début l'identité sonore elle est déjà là, parce que dans le studio, même si c'est pour faire une maquette, quelque part les sons vont avoir une importance et on n'a plus de compositeurs qui font pas gaffe au son. C'est-à-dire que ils vont dès le début se dire on va chercher le bon son, on va chercher le bon son de drum, on va chercher le bon son de clavier, etc. Et ensuite on améliorera ça, mais l'identité sonore elle restera quand même en grande partie.
Tu fais de la musique toi-même, Mathieu?
J'ai fait de la musique il y a longtemps, mais très très vite j'ai compris que ma place c'était plutôt de laisser les autres la faire et d'être derrière caché.
Cette question, parce que d'ailleurs elle est pas valable seulement pour l'éditeur, hein, c'est pas que toi que je questionne, mais c'est de manière générale les gens qui entourent les musiciens et qui par exemple peuvent donner des conseils sur la composition. Est-ce que justement en faisant un métier comme celui-là, on apprend aussi d'une certaine manière comment on compose, qu'est-ce qui marche, etc. Sans être musicien soi-même, mais en tout cas, on développe un œil, tu penses, une oreille plutôt même?
Ouais, bah, alors il y a des directeurs artistiques qui ont été musiciens, il y a des directeurs artistiques qui l'ont pas été du tout, il y a des très bons DA.
Tu penses que c'est un atout quand même d'être musicien?
Pas forcément. Je pense qu'il faut être sensible. Il faut être sensible et il faut un tout petit peu de connaissances techniques pour avoir la capacité à verbaliser ce qu'on ressent. C'est-à-dire qu'il faut être capable de pas être trop abstrait. dans la manière dont on verbalise ce qu'on ressent. Donc souvent quand j'ai des directeurs artistiques ou des directrices artistiques qui ont pas forcément les notions techniques, je les envoie en formation, passer une après-midi avec un beatmaker par exemple pour apprendre ce que c'est qu'un delay, ce que c'est qu'un effet et voilà comment ça marche, les pistes, quand on découpe une drum, une ligne de basse, etc.
Ça, c'est des prérequis pour faire vos métiers?
Ouais, c'est pas des prérequis pour entendre les choses, mais c'est des prérequis pour les exprimer, pour exprimer ce qui nous manque ou quoi que ce soit. Et voilà, donc je pense que c'est pas forcément nécessaire d'avoir été musicien pour faire un bon directeur artistique ou une bonne directrice artistique, que ce soit en édition ou en production d'ailleurs.
Mais du coup, il peut y avoir des moments où la partie DA de l'éditeur est en conflit avec la partie DA de la prod.
Alors, aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'artistes qui vont choisir des voies de distribution. Mmh. Donc, dans ce cas-là, je dirais même que quand vous signez avec un distributeur, il n'y a pas forcément de ressources artistiques au sein de ce distributeur. Et donc, vous allez vous appuyer sur l'éditeur beaucoup plus, y compris pour des questions de production, sur l'éditeur ou sur votre équipe indé. Souvent, quand l'artiste il est autoproduit et que
on distrib vraiment, il y a aucun droit de regard. C'est genre on me file un CD, voilà, c'est
un produit fini. Alors c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça.
Je le disais aussi.
Il y a des contrats de distribution qui sont en réalité beaucoup plus qu'un contrat de distribution, mais la maison de disque n'a pas pu négocier mieux qu'un taux de distribution. Ouais. Donc elle va faire beaucoup plus que le travail d'un distributeur, mais ça sera pas forcément valorisé dans.
Ça c'est quand tu pèses, à mon avis, en tant qu'artiste, que t'es capable de dealer ça.
Ça c'est sûr. Mais sinon, en tout cas, pour ce qui me concerne, ça s'est toujours bien passé avec les labels, même quand l'artiste a signé en contrat d'artiste après ou en licence. En fait, ça se fait en bonne intelligence. Il y a un autre directeur artistique ou une autre directrice artistique qui arrive. Et en réalité, on encadre l'artiste ensemble. Voilà, quand nous, on a été là avant, il y a un lien qui se crée, qui est fort, sur lequel le directeur artistique en label qui arrive après, il a besoin de s'appuyer. Et donc ça se fait en bonne intelligence.
Il n'y a eu aucun cas où en fait une fois que l'artiste il a bossé avec l'éditeur pour créer en fait sa patte, son identité, etc., il démarche des maisons de disques, la maison de disques le signe et elle lui dit bon, par contre ton éditeur était gentil mais en fait on a les nôtres et tu vois
Ça a dû arriver par le passé. Moi, j'ai pas connu ça.
Tu veux bien nous raconter pour que ce soit concret pour les gens sur ce sujet, hein, comment par exemple, parce que vraiment t'as été, et toi d'ailleurs, l'un des premiers partenaires d'Angèle, on le disait tout à l'heure, qui est aujourd'hui devenu une star immense, qui sort bientôt un nouvel album d'ailleurs, etc. Comment ça s'est passé la genèse justement, parce que je sais qu'il y a eu un accompagnement important et peut-être ça peut un peu rendre concret là, notre discussion.
Ouais, bah en fait Angèle avait la volonté d'être indépendante, d'avoir sa propre
avant même d'être connue, etc. Là vraiment
avant même d'être connue, elle a grandi avec un papa artiste aussi qui lui a expliqué les choses et du coup elle avait l'envie d'être indépendante, d'être libre surtout, d'avoir son timing, de pas être pressé de sortir les choses, etc.
Vous vous rencontrez en quelle année, tu te rappelles?
On se rencontre en 2017. Par chance, je tombe sur la captation vidéo d'un concert qu'elle a fait pour les In Rock et qui était dispo en ligne quelques semaines après le concert. J'entends une bonne chanson, deux bonnes chansons, trois bonnes chansons. Vraiment, j'accroche sur les titres que j'entends. Je vais la voir sur scène à Liège dans une soirée d'étudiants où il y a vraiment quatre tréteaux, trois planches. Elle est avec son clavier en train de chanter dans une soirée où les gens sont plus là pour boire des coups que pour écouter une artiste qui chante. Et moi je suis frappé par la qualité des chansons, de sa voix, son charisme et voilà, et donc on se rencontre et je lui propose de signer un contrat d'édition et de prendre le temps de construire son répertoire, son équipe avant de signer son contrat de label.
C'est-à-dire que là, vraiment, t'arrives dans le truc, salut, je suis Mathieu Tessier, j'aime bien ce que tu fais, bossons ensemble.
Oui,
prise de contact en amont de...
Non, bah c'est on se voit 5 minutes après le concert, mm-hmm. Et puis ensuite on refait des rendez-vous avec son management sans elle, puis avec son management et elle, et voilà.
Elle avait un management, mais pas de tourneur, pas de maison de
disque. Elle avait un producteur de spectacle, très tôt avec Augury, qui d'ailleurs lui a permis de faire les premières parties de Damso, mm-hmm. et c'est ce qui a beaucoup aidé à ça, en tout cas à ce qui s'est passé ensuite. Mais voilà, elle a un producteur de spectacle, deux managers, et en plus ils sont en Belgique, donc ils n'ont pas forcément le réseau en France, même si l'un des deux avait de l'expérience en management, mais ils ont besoin d'une expertise en France. Et donc voilà, on se voit, jusqu'à un rendez-vous à Bruxelles où là on rentre dans le vif du sujet, et je leur écris une stratégie, en tout cas je leur propose un calendrier de sortie
sur plusieurs mois
avec une sortie de titre progressive, etc. Et je propose un contrat qui lui permet de prendre le temps, d'avoir le temps d'écrire et de composer. D'avoir les moyens de payer ses premières séances photo, même ses premiers clips, puisqu'on a produit ses premiers clips, et d'être en studio et de lui faire un retour sur ses chansons, etc. Et surtout de créer sa structure pour héberger ses masters.
Ça, c'est vous, c'est sa volonté, tu le disais de base, mais. Pourquoi vous participez à ça ? C'est pas censé être de l'édition.
C'est pas censé être de l'édition, mais on arrive à une époque où les artistes commencent à avoir envie de contrôler leur master, et surtout c'est pour répondre à son envie.
Est-ce qu'il y a l'idée entre guillemets que oui, tu es éditeur, mais avant tout il y a une artiste avec qui tu as très envie de travailler, tu as envie d'être un partenaire fiable entre guillemets, et donc tu l'accompagnes de manière général dans sa carrière du mieux que tu peux, c'est ça un peu l'idée?
Ouais, c'est un peu ça, franchement. C'est notre rôle, il va être différent suivant chaque projet, et là c'est plus j'ai un coup de cœur sur ce que t'écris, j'ai un coup de cœur, j'ai l'impression de voir où tu veux aller, et j'ai envie de t'aider à aller où tu veux aller, et du coup c'est te donner les moyens, te donner du temps, te donner des moyens financiers, et te donner mon réseau, mettre à ta disposition mon réseau pour que tu puisses créer ton équipe pour ensuite promouvoir ta musique, la créer mieux, et ensuite, par contre, on signe en septembre 2017. Tout l'album se crée en parallèle de ses premières parties de Damso et de ses premières dates à elle sur son nom, les premiers festivals émergents et tout ça. Et puis ensuite,
parce qu'en 2017, on rappelle, je regardais là en même temps pendant nos discussions, elle met ses premières reprises sur Internet en 2015, et en fait, il y a 2 ans où elle commence à avoir une petite couverture médiatique, mais c'est pas encore une star du tout, quoi.
Puis même la mettre sur les premières parties de Damso, je veux dire, c'est un pari de ouf, parce que tu peux traumatiser l'artiste, en fait.
Je me retrouve
petite meuf sur scène pour un concert de rap. Les mecs, ils vont dire, dégage, en fait.
Ça a été difficile sur les premières. Ça a été difficile. Et puis, elle a beaucoup appris grâce à ça. Et voilà. Et puis, du coup, elle a pu faire son disque aussi dans des conditions en dehors de toute pression, en tout cas marketing ou promo. Et puis, prendre le temps de discuter avec les maisons de disques qui s'intéressaient à son profil, et de discuter sans être dans l'urgence.
Puisqu'elle avait l'avance, etc.
Voilà, elle avait les moyens d'avancer et puis de faire grandir son profil, et puis aussi d'aller à son rythme. C'est-à-dire que elle voulait absolument commencer par des médias plus indépendants, pas aller trop vite en mass média, y aller progressivement. Elle avait vraiment ce souhait-là. Donc voilà, on lui a permis ça.
C'est déjà très hybridé comme notion d'implication, en tout cas dans la carrière artistique, déjà d'être dans la carrière artistique de l'artiste, finalement.
Ouais, et c'est...
Parce que là, t'es littéralement à l'origine de la carrière d'Angèle.
Je dirais pas ça. Elle est à l'origine de sa carrière.
Oui, non, bien sûr.
Et voilà, et je suis venu lui apporter mon aide.
Je suis d'accord, mais je veux dire, si elle a pu exploser comme elle a explosé, c'est parce que tu as peut-être été là au bon moment aussi, avec les bons
participé
contacts,
en tout cas au succès, ouais, probablement.
Et architecte un petit coup.
Warner,
coup
évidemment, et comme d'autres partenaires, c'est-à-dire que le producteur de spectacle a contribué, et puis...
Celui qui l'a envoyé au charbon, là, en première partie de Damso, là.
En tout cas, ils ont Augury a été très important dans son développement, et puis elle a signé à l'été 2018, quelques mois avant la sortie de Brawl, avec Initial, un contrat de distribution amélioré avec eux, et ils ont été formidables, et ils ont pris le relais, et ils ont passé la seconde en termes de d'impact marketing, etc. Et son succès serait pas possible sans ça aussi. Donc c'est l'ensemble des partenaires autour du projet, et avant tout c'est l'artiste, sa vision.
T'as quand même des cas où avec un investissement, et je parle d'investissement vraiment, enfin tu vois, pas que financier, mais en gros l'attention accordée à un artiste et le fait de croire en son projet, etc., ça t'est arrivé aussi d'avoir justement des artistes qui prennent pas, qui explosent pas. Parce que tu disais.
Est-ce que t'as des échecs, Mathieu?
Non, mais parce que, en fait, ce qui est intéressant avec l'éditeur, c'est que toi, tu disais, vous êtes sur le temps long. Donc, dans l'absolu, bon, si on mise sur un artiste maintenant, et en fait, il pète dans 10 ans, c'est même pas un échec pour vous. Ça serait peut-être un échec pour une maison de disques.
Pour compléter ta question, comme ça, après, il pourra répondre, Mathieu. On dit souvent, tu sais, pour les labels de musique, en gros, sur 10 artistes, allez, si t'as 2-3 succès, c'est déjà bien, en gros. Et c'est d'ailleurs les gros succès, bon, j'exagère un peu comme ça, mais tu vois, un peu schématiquement, en gros, c'est les gros succès qui vont permettre de payer un peu tout le monde, parce que sinon, c'est pas très rentable, en fait. Il y a que quand il y a quelqu'un qui paie. Et donc, t'essaies de trouver cet équilibre permanent et tout. C'est un peu pareil pour un éditeur?
Je dirais même que c'est encore pire pour un éditeur.
Ah ouais.
Pour un éditeur, si vous prenez 100 œuvres éditées par Warner Chappell, vous avez 3 œuvres qui vont représenter 75% du chiffre.
Ah ouais.
Wow, okay.
Pourquoi ? Parce que les droits d'édition, ils sont générés pas seulement par le digital, mais ils sont générés par le digital, le live, la radio, la télé, etc. Donc, les œuvres qui vraiment sont très rémunératrices en édition, c'est des œuvres qui sont complètes.
Qu'est-ce que tu appelles par complète, pardon ?
Bah, c'est des œuvres qui ne sont pas seulement des hits de streaming,
ouais.
Mais elles doivent être en stream, à la radio, à la télé, dans des grandes salles, jouer dans des discothèques, etc. Voilà. Donc en gros, c'est une toute petite partie des œuvres qui représente une grande partie de nos revenus. Quand vous savez ça, vous avez deux grandes stratégies possibles. La première, c'est de signer beaucoup.
Il y en a bien un qui va marcher dans le tas.
De signer beaucoup de fois les 100 œuvres pour ouais, multiplier les chances d'avoir les 3. Et la deuxième, c'est de croire en l'artistique, de croire en ses convictions et d'essayer de viser juste et de pas lâcher.
C'est un peu l'inverse, c'est très picky, genre attends, je vais vraiment fouiller pour voir, je veux représenter cette œuvre là et c'est celle là que je veux, c'est un peu ce truc comme ça.
Ouais, je de dire beaucoup non. Moi, en 14 ans de direction artistique et 20 ans chez Warner Chappell, j'ai beaucoup dit non, parfois en me trompant. Mais ce que me disait Caroline Molko, qui était la présidente de Warner Chappell pendant 18 ans, elle me disait tout le temps.
Avant toi, donc.
Ouais. Ouais, juste avant moi, et qui est un de mes mentors évidents. Elle me disait tout le temps, c'est pas grave de rater des choses, ce qui compte, c'est d'en réussir. C'est pas grave de ne pas avoir signé un artiste qui finit par avoir un succès.
Qui t'a raté, dis-nous.
Parce que...
pour de vrai, t'as un truc que tu peux dire comme ça, ou genre, t'es passé à côté, quoi.
Bon, j'aime pas parler des échecs, mais j'ai pas cru en Eddie Depreto, par exemple, okay. au début. Il était dans une formation très différente, j'ai assisté à un concert au pop-up du label dans une petite salle dans le deuxième arrondissement, et j'en suis pas sorti convaincu. Après qu'il est signé avec Initial, justement la même équipe avec laquelle j'ai travaillé Angèle, ils ont fait un travail admirable de répertoire, de production, d'image, etc. Et j'ai compris quand l'album était fait. dans le même temps, j'ai fait Angèle. Donc, ce qui compte, c'est d'avoir des convictions et de réussir des choses. Mais en tout cas, un directeur artistique qui a l'angoisse de louper quelque chose tout le temps, il va faire des mauvais choix parce que il va signer tout le monde, en fait, en se disant, on sait jamais, ça peut être lui, etc.
Surtout si t'es sur le temps long, en plus, tu dis, bon, c'est pas lui maintenant, mais ça se trouve, dans 5 ans, c'est à la mode, son truc. Allez, vas-y.
Et le problème, c'est que ceux qui font ça, ils se retrouvent très, très vite dans l'incapacité de travailler de la bonne manière avec les gens qu'ils ont choisi de signer parce qu'ils en ont trop et qu'en fait, les journées font 24 heures. On ne peut pas s'occuper de la même manière de 10 personnes en même temps et donner de la force et être présent, etc. Et en tout cas, nous, on essaye de vraiment bien choisir les artistes ou les compositeurs ou les compositrices sur lesquels on se positionne, mais de pas lâcher et de vraiment être derrière. Et puis c'est eux nos ambassadeurs, c'est-à-dire que tous les artistes se parlent.
Ouais.
Et si vous avez des artistes qui vraiment reconnaissent votre travail et savent ils que vous avez été présent pour eux, ils le disent autour d'eux et c'est nos meilleurs ambassadeurs. Donc on essaye de faire ça, même si c'est difficile dans une période où il y a TikTok, on sait pas par quel biais les projets vont percer, donc on peut avoir la tentation de signer plus. Moi j'essaye de tenir bon et de garder cette ligne qui fait notre différence aussi depuis 20 ans.
Mais du coup, est-ce que on peut dire que depuis, donc tu disais, on parlait de la SACEM qui avait 175 ans, donc le travail d'éditeur est adossé à ce truc-là, donc ça fait plus de 100 ans aussi que le métier existe. Est-ce qu'on peut dire si aujourd'hui, moi j'ai l'impression que si, mais tu vas me dire si c'est vrai ou pas, le métier est largement plus complexe parce que beaucoup plus nucléarisé entre. Enfin, avant t'avais un mec avec une guitare et c'était réglé. Maintenant les mecs ils sont en studio, il y a 12 beatmakers, un gars qui fait les top lines, machin, etc. Ça doit être un merdier pas possible.
On peut rappeler par exemple les débuts des éditeurs. L'un des grands trucs des éditeurs c'était d'éditer des partitions.
Oui, voilà.
Tu vois, c'était des compositions. Nous on va les représenter et donc on va les mettre à l'écrit et ensuite on va essayer de vendre ces partitions.
Est-ce que l'éditeur à l'époque disait cette partition m'intéresse, je vais t'acheter un piano et je vais t'accompagner pour que tu rejoues bien ta partition.
Probablement. le métier a complètement changé.
C'est pas réducteur d'appeler ça éditeur finalement, alors que ça, c'est beaucoup plus large.
Peu importe comment ça s'appelle, franchement.
Manager, par exemple.
Ce qui compte. T'insistes, hein, vraiment. peu importe comment on le qualifie. Moi, j'ai toujours été passionné par les artistes, les chansons, et ce qui compte, c'est de travailler dans l'endroit où on est le plus à même à avoir un lien avec eux et à jouer un rôle pour eux. Et c'est vrai que aujourd'hui, en tout cas dans cette période, et ça va peut-être changer, mais en tout cas dans cette période où, en master, en tout cas, les artistes sont beaucoup autoproduits et distribués par les labels. Pour moi, le job de DA en édition est encore plus important peut-être que ce qu'il était quand j'ai commencé. Mais oui, c'est sûr qu'on a des œuvres plus complexes. Il y a plus de personnes en studio. On passe beaucoup de temps à, on va dire, décoder ce que nous disent les gens qui étaient dans le studio. En disant oui mais ça c'est ma top line, ça c'est ma drum, etc. Essayer de les éduquer un petit peu entre guillemets sur le droit d'auteur pour les aider à faire la différence entre qu'est-ce qui est de la production, qu'est-ce qui est de la composition, qu'est-ce qui est de l'arrangement, etc. C'est vrai qu'on a des œuvres qui sont plus complexes avec
ça,
plus
c'est un vrai phénomène parce que tu sais on connaît quand tu t'intéresses un peu à la musique, tu sais que derrière des morceaux de Beyoncé, de Katy Perry, de je ne sais qui, etc., souvent il y a beaucoup de gens impliqués, y compris des compositeurs et des paroliers, enfin des auteurs compositeurs. on le sait, pour cette branche de l'industrie de la musique qui est vraiment justement très industrialisée, entre guillemets, avec plein de process,
bah là,
etc.
C'est du taylorisme, ouais.
Mais c'est valable pour l'ensemble de la musique même ?
Non. On va dire, il y a plus d'intervenants sur les œuvres qu'on dépose aujourd'hui. On avait plus d'œuvres avec une personne qui était en France, on a la tradition de l'auteur, compositeur, interprète, qui écrit, qui compose, etc. Aujourd'hui, on a plus d'intervenants sur une œuvre.
Ah, c'est quand même un phénomène, ça c'est sûr.
C'est sûr. Après, récemment, j'ai travaillé avec Zao Tsagazan. Tout l'album, il a été fait avec deux compositeurs producteurs majoritaires et un troisième qui est intervenu sur quelques titres. Mais au contraire, elle avait besoin d'être dans un circuit resserré, de travailler que avec les mêmes personnes, de chercher avec eux le son, et elle aussi de beaucoup contribuer à la production et tout ça. Ça
dépend du... On peut dire peut-être que ça dépend du style musical, peut-être que...
Je dirais pas forcément. En tout cas, il y a des rappeurs. Si on prend le rap, il y a des rappeurs qui vont être de l'école où ils vont vouloir recevoir plein d'instrus différents, peu importe d'où ils viennent, et du coup avoir des ambiances différentes sur chaque titre grâce à une composition multiple de multiples personnes différentes, et d'autres personnes qui vont vouloir façonner le son
avec un producteur.
Donc je lirais pas ça à un genre de musique, mais oui, c'est sûr qu'il y a moins de groupes. Les groupes, c'est traditionnellement c'est des artistes qui se réunissent et qui ont un son sur scène, et du coup on essaye de retranscrire en disque ce qui se passe sur scène. On a moins ça, et on a plus, je dirais que ce qui fait que les intervenants se multiplient, c'est plutôt les versions qui se succèdent. C'est-à-dire qu'au début, on va avoir une version 1 d'un morceau qui est souvent un artiste avec un producteur, ou un top liner avec un producteur, ou un top liner auteur avec un producteur. Et puis ensuite, de cette version, on va prendre un input de quelqu'un d'autre pour travailler le refrain, ou rajouter un drop.
Ça se passe comment, le dépôt à la SACEM, par exemple? Est-ce que tu déposes la V1,
c'est là
la
où V2, c'est compliqué.
La V10?
En général, on dépose la version finale. C'est là où nous, on a une expertise, on a l'habitude, et donc on va essayer, même si c'est pas nous qui décidons, c'est les auteurs-compositeurs qui doivent tomber d'accord entre eux. Nous, on va essayer de décoder ce qui s'est passé et comment ça se valorise habituellement selon les usages, etc. Et voilà, mais c'est sûr que c'est techniquement c'est plus compliqué. Et puis aussi, il y a plus d'éditeurs sur la même œuvre, donc il faut interroger plus de gens. Quand on place la musique sur une synchro, par exemple, sur une pub ou sur un film. Donc voilà, je dirais que le métier est plus compliqué techniquement parce qu'il y a plus d'intervenants sur une œuvre, et il s'est peut-être élargi un petit peu avec le phénomène de la distribution et le fait que les artistes soient leurs propres producteurs. Évidemment, ils viennent rechercher des ressources peut-être un peu plus chez leur éditeur que ce qu'ils ne faisaient auparavant.
Ça, c'est un truc que j'apprends. C'est-à-dire qu'on connaît ce phénomène, effectivement, de volonté d'autonomie, d'autoproduction des artistes. On sait que ça a été initialement, notamment beaucoup dans le rap, des Jul, des PNL, etc., qui ont imposé un modèle autour du contrat de distribution et qui ensuite a essaimé partout. Plein de gens de la pop ont dit « Attends, ça m'intéresse, en fait, leur truc et tout. »
Pour moi, en 2013-2014, même dans le rap, la plupart des contrats, c'est des contrats de licence. Et moi, je pense que c'est vraiment PNL et Jul qui montre un petit peu la voie du contrat de distribution, et ensuite d'autres s'y engouffrent.
J'avais pas conscience, moi, que c'était d'une certaine manière pour que l'édition prennent un peu plus de place aussi. Enfin, qu'il y a eu ce phénomène mécanique comme ça.
Ouais, c'est pas voulu.
Oui, bien sûr.
C'est évident que quand vous preniez un artiste et que vous travaillez son répertoire, et puis ensuite vous signez, je parle au passé, l'artiste signait dans une maison de disques un contrat d'artiste avec un chef de projet, un directeur marketing, un service image, toute une équipe promo. Et je dis pas que ça se fait plus. Il y a encore des ressources, il y a encore des labels qui travaillent super bien des projets en interne avec 100% des équipes en interne et qui le font à merveille. Mais d'un coup, c'est comme si on passait le relais, quoi. C'est-à-dire que l'artiste, on l'avait, et puis ensuite on l'emmenait dans une maison de disques qui allait prendre tout en main. Si cet artiste aujourd'hui choisit un contrat de distribution, bah, il va avoir de l'argent pour pouvoir seul produire ses masters, ses clips, payer son équipe promo, faire son marketing. Donc ça sous-entend que d'un coup, il doit embaucher un ou une chef de projet, des attachés de presse, voilà, payer lui-même des clips, etc. Du coup, bah, voilà, ça implique des ressources en externe, mais souvent, son premier réflexe, ça va être de demander à son éditeur une expertise pour constituer son équipe, pour... voilà, donc notre rôle s'est étendu de ce fait.
Il nous reste un peu moins d'une heure. On va évoquer aussi cette dimension. Peut-être essayer de recentrer sur quelques points qui me semblent importants. On a évoqué, par exemple, ton expérience avec Angèle. Et globalement, on a parlé en fait d'une branche que tu... D'ailleurs, tu étais à la tête de cette branche avant d'être président, qui est donc le A&R, qui est en fait Artist and Repertoire. En gros, c'est le fait d'essayer de prospecter pour trouver des artistes. Puis ensuite, c'est le lien avec les artistes, en gros. Comme d'ailleurs dans la production, en label, en maison de disques, il y a le A&R, c'est pareil, etc. Bref. On a évoqué un exemple avec Angèle, mais en fait, Angèle, elle commençait déjà à bénéficier d'une petite exposition. Je dis pas que c'était facile de miser sur elle, tu savais pas qu'elle allait devenir aussi énorme, mais par contre, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait, j'imagine quand même. En tout cas, il y avait... Prenons un exemple tout autre. Je sais pas si tu veux prendre des exemples concrets, mais de quelqu'un, vous êtes vraiment allé le chercher, c'est-à-dire qu'il y avait zéro, ou alors il vous a écrit, j'en sais rien. Comment? Moi, je suis artiste, demain, je veux trouver mon éditeur. Comment je le trouve? Tu vas m'écouter, Mathieu, si je t'écris un mail, tu vois, qu'est-ce qui va se passer?
Alors, j'ai une équipe de directeurs et directrices artistiques vont écouter, c'est-à-dire que mon premier réflexe, si je reçois un mail de ta part, c'est de faire suivre. En fonction de l'esthétique, à une personne de mon équipe. Et cette personne, elle va écouter, et je vais pas tout écouter derrière ces personnes, parce que je leur fais confiance, qui sont plus jeunes que moi, et que je les engage pour ça. Mais en tout cas, j'aurai un feedback de cette personne pour me dire, pas ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup, mais plutôt je suis sensible. Où je ne suis pas sensible, parce que c'est une histoire de sensibilité. Donc ça, c'est le
problème. C'est quand on vous contacte, ça.
Voilà, c'est quand on nous contacte.
Il y a un mail sur votre site pour vous écrire?
Il y a un mail. Il
s'affiche en bas de l'écran.
Non, mais c'est vrai, mine de rien, tu sais, enfin, est-ce que c'est accessible?
Non, mais bien sûr que c'est accessible. Il y a un mail. En tout cas, il suffit d'appeler à l'accueil et puis ensuite il y a un mail générique sur lequel on peut envoyer son projet. Et voilà, donc on reçoit beaucoup de choses entrantes. Et après, les directeurs artistiques, les directrices artistiques, ils ont leur réseau et eux, ils passent leur journée à chercher. Donc, c'est-à-dire construire un réseau autour d'eux, de managers, de producteurs de spectacles, d'autres professionnels. Diguer aussi sur Internet, aller chercher, laisser l'algorithme aussi nous guider.
C'est quoi? C'est YouTube? C'est Instagram? Il y a des plateformes un peu privilégiées comme ça?
C'est TikTok, Instagram, Spotify aussi, YouTube beaucoup. Et voilà. Et puis après, il y a des dispositifs de repérage qui existent en France, dans tous les territoires. Moi, j'ai été pendant 2 ans conseiller artistique pour le Printemps de Bourges. C'est des dispositifs qui existent en région. Vous êtes artiste, vous allez voir la salle à côté de votre résidence.
Une SMAC.
Une SMAC. Et puis, du coup, souvent, ça va être la SMAC qui va être l'antenne régionale des découvertes. Et vous allez soumettre votre projet. Et vous avez quelqu'un qui va descendre de Paris pour aller écouter les 500 projets locaux. On écoute une chanson ou deux. Et ensuite, ils en gardent 6 qui vont se performer sur une scène, etc. Donc, on continue de faire beaucoup attention à ça. Un exemple d'artiste qu'on a eu vraiment au tout début, c'est Zao de Sagazan, c'est un bon exemple. Elle candidate aux Inouïs du Printemps de Bourges, donc aux découvertes du Printemps de Bourges dans sa région à Nantes. Du coup, j'ai une connaissance qui écoute et qui me dit « il y a un projet vraiment pas mal ». Je reçois le projet, je le fais suivre à Hélène Renaud qui m'assiste, et c'est elle qui me dit vraiment, tu devrais réécouter, ça me fait quelque chose. Du coup, je réécoute des maquettes. On cale un rendez-vous, elle est suivie par 1500 personnes sur Instagram, elle a fait partie d'un groupe avant qui chantait en anglais, et donc on se voit, elle me fait écouter des maquettes. de ses chansons, et on parle de la vision, de ce qu'elle veut, la place du live dans son développement, etc. Et on a signé un contrat à la fin de l'été, après deux longs rendez-vous et beaucoup d'échanges, de retours sur des titres, etc. Et puis on est parti de rien ensemble. Elle avait une amie de collège qui avait velléité à manager. Et ensemble, en fait, on a construit tout un réseau, toute une équipe qui aujourd'hui est encore son équipe, progressivement, l'aider à enregistrer sa musique, à avoir du temps, tout ce que j'ai expliqué juste avant, quoi. Donc ça existe encore, et j'ai la capture d'écran du jour où on ouvre le Spotify et où elle a zéro auditeur mensuel. Donc on est vraiment parti ensemble de zéro, et ça a pris du temps, par contre. On a signé à l'été 21, elle a sorti son album en mars 23. Donc c'est sûr que si vous êtes dans une structure qui vous presse pour avoir du résultat tout de suite, etc., vous n'avez pas ce temps devant vous qui vous permet d'aider l'artiste en fait à se trouver, quoi.
Ça veut dire, ce que tu dis, que tu attaches notamment une importance au texte, ça signifie que par exemple, lorsque je suis compositeur de musique instrumentale, c'est un peu plus difficile, ou alors qu'il y a des éditeurs qui sont un peu plus spécialisés là-dedans par exemple, ou c'est difficile à trouver un éditeur quand tu fais de la musique instrumentale?
Non, il y a des éditeurs qui sont spécialisés, okay, dans toutes les typologies de musique.
Ils font attention aux snares par exemple.
exactement, non mais évidemment, il y a des éditeurs dans toutes les esthétiques. Après, c'est vrai que il y a aussi il y a des éditeurs et il y a aussi des gens qui peuvent faut faire attention aussi, quoi. Quand vous êtes un jeune artiste, il faut faire attention parce que les éditions, elles durent longtemps, et donc il faut pas aller donner à n'importe qui. Il y a parfois ça m'arrive de rencontrer des artistes assez tôt dans leur carrière, je leur dis au niveau de tes éditions t'en es où? J'ai donné mes éditions. Ah bon, tu les as donné sur combien de titres et tout? Tout mon premier EP, je l'ai donné à quelqu'un parce qu'il avait un studio, et donc du coup il me permettait d'aller enregistrer mes chansons, donc en échange je lui ai donné mes éditions. Voilà, il faut faire très attention avant de donner ses éditions. Avant de signer un contrat d'édition.
C'est très transactionnel, mais finalement c'est ce que toi tu fais aussi, tu vois.
C'est ce que je fais aussi. Si tu prends que matériellement, il y a deux sociétés qui vont te proposer un contrat d'édition et te faire signer un contrat d'édition. Oui, effectivement, mais après il y a des choses dans ce contrat.
Est-ce que toi, tu les artistes que tu travailles, tu leur dis
mon contrat il est pas ouf.
Ouais, non mais pas ça, tu vois, mais. Par exemple, sur une Angèle, je sais pas c'était quoi le deal à la base, mais toi, ça me semblerait logique. Tu crois en l'artiste, tu développes l'artiste, en tout cas, tu contribues à son développement. Ça serait pour moi logique que tu dises, je suis éditeur, let's go, je prends la totalité d'un album, par exemple.
C'est tout vraiment quand tu es au début de la carrière d'un artiste en qui tu crois beaucoup, tu vas miser à la hauteur de tes convictions, et donc t'as besoin aussi de moyens pour travailler. C'est-à-dire que ce qui est écrit dans le contrat, c'est les moyens qui ensuite te permettront de payer des attachés de presse, d'aller payer des séances photos, d'aller essayer des mix, des choses comme ça. Et donc du coup et puis l'artiste, pour qu'il soit content, il faut qu'il ait eu un contrat qui soit valable. Si tu lui signes le contrat le plus en ton avantage possible, et le plus, au bout d'un moment il va finir par se renseigner.
Est-ce que quand même, parce que c'est aussi le monde du travail, mine de rien, l'industrie musicale, les éditions, les auteurs, etc., avec des intérêts propres à chacun. L'éditeur n'a pas, même si son idée c'est d'essayer de bien travailler avec l'artiste, mais il n'a pas exactement les mêmes intérêts toujours. Est-ce qu'il y a aussi une question quand même de rapport de force? Ça reste le travail. Le travail, ça se passe comme ça parfois. Le patron, le salarié, ils n'ont pas toujours les mêmes intérêts. C'est de mettre d'accord. Je ne dis pas que vous avez un rapport patron-salarié avec les artistes, mais il y a quand même ce truc d'intérêt parfois divergent. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision, et qui peut créer d'ailleurs des tensions aussi parfois? C'est pas toujours tout rose.
Entre l'artiste et l'éditeur, ouais, ou entre l'éditeur et les autres partenaires?
On peut parler des deux si tu veux.
Non, mais entre l'artiste et l'éditeur, je vais pas vous dire que ça se passe toujours bien. Il arrive qu'il y ait des divergences et dans ce cas-là, on se met autour de la table et on discute. Nous, on va pas. Enfin voilà, c'est compliqué de garder des contrats d'exclusivité avec des gens qui sont mécontents. En fait, tout se base sur leur création. C'est-à-dire que pour que moi j'édite des œuvres, il faut qu'il m'envoie des œuvres. Pour qu'il m'envoie des œuvres, il faut qu'il ait envie de me les envoyer. Pour qu'il ait envie de me les envoyer, il faut que la relation soit bonne.
Oui, mais alors, je me permets, si la relation se tend avec un artiste, mais pour lequel tu as déjà des œuvres.
Ouais.
Et que l'artiste, il est big.
Tu vois. Il y a un cas concret qui est arrivé avec Warner, si tu veux l'évoquer, tu nous dis, hein, c'est avec Francis Cabrel. Il y a eu, il y a quelques années maintenant.
L'année dernière.
Il y a eu procès, même si je dis pas de bêtises. Enfin, ouais. Il y a eu une action en justice.
Je crois qu'il a été débouté, mais à la
exactement.
Base.
Tu veux nous parler, parce que c'est un exemple de conflit, quoi. Alors, je sais pas si tu as envie de parler de ce cas précis ou de manière générale, mais lorsqu'on n'est plus d'accord. Lui, en l'occurrence, il disait, j'ai laissé mes œuvres, mais en fait, c'est trop long, entre guillemets, l'exploitation de mes œuvres. Ça ne me convient pas. Bon.
Ouais, bah, ça m'embête de parler d'un cas précis, mais.
Peut-être de manière générale, si tu préfères.
Disons que ce qui joue dans ce qui se passe pour des œuvres qui sont anciennes, c'est le contexte dans lequel ces œuvres elles ont été éditées. Mmh. C'est-à-dire que souvent nous, quand on a un catalogue et des œuvres dont on assure la gestion longtemps après, on n'était pas là le jour de la signature de ce contrat. Et souvent, ce qui entraîne des tensions, c'est quand le contrat, il ne s'est pas signé dans une bonne compréhension. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des cas où des artistes ont l'impression d'avoir donné leurs éditions sans le savoir, ou de l'avoir donné pour les mauvaises raisons, ou de l'avoir donné aux mauvaises personnes, etc. Et du coup, nous, on attache beaucoup d'importance au fait d'être explicite sur les engagements qu'on prend. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas une offre dans laquelle on ne conseille pas à l'artiste de prendre un avocat. Pour moi, un bon contrat, c'est un contrat qui est compris et par tout le monde, et on doit sortir heureux de la signature d'un contrat parce que l'artiste a été défendu, parce que nous on a été challengé dans notre offre et parce que on sait bien tous ce pourquoi on s'engage. Donc il peut y avoir des conflits des années après dont nous on va hériter. En réalité, c'est une colère qui n'est pas dirigée contre nous aujourd'hui, c'est une colère qui est dirigée contre les gens avec qui l'artiste s'est engagé au début dans un contexte pas forcément compris, pas forcément favorable.
Alors, dans ce cas-là, alors, on ne va pas spécifiquement parler de Francis Cabrel, mais donc, si on est sur un artiste du même calibre, c'est-à-dire qui est considéré comme une légende vivante, mais qui n'est pas forcément super actif, la relation se tend, donc. Lui, il prend un autre éditeur pour les prochains titres qui sortira, mais vous avez quand même la gestion en catalogue de tous ces précédents titres qui généralement sont ces grands classiques. Est-ce que lui peut décider de vous retirer ce truc-là ou en fait c'est signé et c'est foutu?
Il y a eu cession, c'est tout quoi.
Alors, c'est signé, mais c'est pas à gagner. C'est-à-dire que on a les droits, mais on doit prouver qu'on travaille les œuvres.
Ah, ok.
Il y a une obligation qui va avec cette durée de droit, qu'on appelle une obligation d'exploitation permanente et suivie. Et donc, on doit être capable de prouver qu'on travaille. Si on n'est pas capable de prouver qu'on travaille, ou en tout cas si on prouve mal qu'on travaille, ou si on prouve qu'on ne travaille pas...
Ah, il a le droit de...
Il va récupérer ses œuvres.
Donc il n'y a pas d'obligation de résultat, mais une obligation de moyens, de faire des choses. Quoi,
exactement. Et du coup, ça, c'est fondamental dans la relation entre l'auteur-compositeur et l'éditeur.
Alors, comment tu prouves ça si on prend... Non, mais tu vois, sur des titres qu'on cartonnait genre il y a 30 ans, comment tu prouves? C'est impossible.
En fait, un éditeur, il doit faire circuler les œuvres, les tenter de les placer sur des synchros.
Tu peux montrer des mails que tu as envoyés à telle production Netflix en disant on a peut-être un morceau qui peut correspondre à vos besoins.
Ouais, mais en plus, l'artiste, il peut dire mais moi, j'ai pas envie que mes chansons soient synchronisées avec une pub pour des
non, groupes. Ça, je mets d'accord, ça, mais quand même.
De toute façon, ça pourra pas se faire sans son accord. Donc,
Voilà. C'est juste prouver que, en fait, on.
Exactement. Donc, en fait, il y a un moyen de juger si l'éditeur continue de travailler, c'est cette exploitation permanente et suivie.
Mais alors, je sais pas combien vous êtes chez Warner Chappell Music France, peut-être que vous êtes 700 000 personnes, mais à un moment donné, Tu vois, si tu dis que toi, tu mises sur 100 pour avoir 3, tu dis, bah, à un moment donné, le catalogue, il est tellement colossal.
Que pour le travailler décemment.
Bah, tu peux pas allouer des ressources sur des morceaux qui ont 35 ans, tu vois. Enfin, comment.
On a des moyens de le faire et des équipes qui font ça. Et on se fait aider d'attachés de presse, on travaille sur des anniversaires. On trouve des moyens de. Évidemment, on n'est pas à fond tout le temps sur tous les répertoires, mais on séquence notre travail et on fait ce travail et on le fait sérieusement. Et on le fait sérieusement parce qu'on doit le faire. Et on le fait sérieusement aussi parce que c'est une source de revenus. C'est-à-dire que quand
vous avez tout intérêt vous à travailler le catalogue.
Évidemment, quand comme ça s'est produit, voilà, c'était les 40 ans du décès de Balavoine. On a fait en sorte, en tout cas, on a poussé pour que des tournées, en tout cas, aient lieu et que des zéniths se remplissent pour assister.
Ce truc-là de commémoration, de travail commémoratif, quelque part, en fait, c'est l'initiative souvent de l'éditeur plus que du label.
Ça peut être le label aussi, puisqu'il y a des anniversaires de sortie d'albums, etc. Donc, on bosse main dans la main avec les labels, en général.
En fait, typiquement, le label, lui, il va avoir intérêt à ressortir des morceaux. Parce qu'en fait, c'est ses masters sur lesquels il a des droits. Et le fait que les masters soient nous exploités, c'est lui qui va bénéficier de l'argent.
Ce qui est intéressant, c'est
là où un spectacle, un éditeur, tu vois, il aura plus intérêt à pousser un spectacle avec des reprises, par exemple, des choses comme ça.
Oui, mais
de l'argent, pas le producteur, par exemple.
Parce que là, on parle de... Le label possède les masters. Mais ça, c'était des contrats d'esclaves à l'ancienne. Maintenant que tous les artistes, ils veulent être propriétaires de leur master. Oui. C'est-à-dire que le label, lui, là, il en a plus rien à foutre, en fait, que son artiste signé sorte un coffret pour le 25e anniversaire. Par contre, l'éditeur, lui...
Exactement. Le label, tout dépend le contrat qu'il a, tout dépend combien de temps durent les droits. Mais il a intérêt, en tout cas, pendant qu'il a les droits, quand bien même il a un contrat de distribution, il a intérêt à ce que les œuvres vivent, qu'elles soient playlistées, etc.
On a quand même entendu beaucoup d'histoires de labels qui finalement ont des artistes dans leur roster et font zéro effort pour
Des conflits. On peut parler d'MC Solar, des grands cas qu'on a.
Ouais. MC Solar, par exemple, là, si je prends le cas MC Solar, c'est-à-dire conflit avec il était chez Polygram ou je sais plus chez qui, mais bref.
T'avais suivi toi
chez Universal.
Tout est chez Universal.
Mais beaucoup de choses chez Warner aussi.
Il était en conflit avec sa maison de disques de l'époque, ce qui fait que la maison de disques refusait de pousser les albums, et le mec, c'est quand même un monument de la chanson.
Par exemple, c'était indisponible sur les plateformes de streaming pendant très longtemps.
Il n'y avait pas sur Spotify, Pros Combat, Qui sème le vent, récolte le tempo, etc. Donc, j'imagine, l'éditeur d'MC Solar, il se dit, mais putain, l'argent! L'argent qu'on pourrait
faire. C'est vrai que ça peut poser question, ce genre de cas, pour un éditeur.
Évidemment, quand il y a un conflit sur le master, et que vous êtes éditeur, bah, le titre disparaît des plateformes, n'est plus streamé pendant le temps du conflit, et du coup, les droits d'édition en pâtissent.
T'as connu des situations comme ça?
J'ai pas en tête un cas précis, mais oui, ça peut arriver.
C'est la même chose avec le 113 aussi. Le Prince de la Ville est toujours pas
disponible.
Plateforme, quoi. Donc
ça, c'est pour des raisons de sample. Je crois que c'est en.
Ouais, finissent plus de dire ouais, ça va.
Non, là, c'est vraiment en voie de.
Ça arrive fort, ça arrive fort.
Mathieu Isser.
Je sais parce que j'ai un titre qui est concerné. Ouais, un sample en tout cas qu'on a régularisé là récemment. Et voilà, donc on a clearé la situation, et donc au moins ce titre-là...
Pour le 113, effectivement, c'est des problèmes avec les samples utilisés pour la composition, donc on peut comprendre que ça coince, mais MC Solar, c'était vraiment 100% du contractuel, quelque part.
Ouais, mais franchement, je peux pas m'étendre sur ça, parce que c'est un sujet que je maîtrise pas bien, et en plus c'est du master, mais en tout cas, c'est un raccourci que de penser que systématiquement les grosses maisons s'occupent mal de certains artistes,
non,
etc.
Pas systématiquement,
ça se passe pas 100% des cas, ça se passe on n'a pas 100% d'idéal et d'artistes qui sont satisfaits, mais une grande partie des gens avec qui on travaille au quotidien sont satisfaits, et si ils n'étaient pas satisfaits, ils ne renouvelleraient pas leur contrat. Et moi, il n'y a rien qui me rend plus heureux que de travailler sur le long terme
avec les artistes. Ans, reviennent.
Exactement. C'est le cas pour Aya Nakamura, c'est le cas pour Orelsan qui travaille avec nous depuis 18 ans maintenant. C'est le cas. Enfin, on a vraiment beaucoup d'exemples.
Est-ce que tu évoques ces exemples-là? Parce que on a évoqué, on avait parlé d'Angèle, on a parlé de Zao de Sagazan, qui est un bon symbole aussi de quand on part vraiment de zéro. Votre travail, comme c'est un éventail hyper large en réalité de gens avec qui vous travaillez. Là, on est dans un cas complètement différent. C'est des gens déjà extrêmement établis. Et j'imagine que là, les enjeux d'une nouvelle signature sont pas du tout les mêmes. J'imagine que le quotidien aussi de comment on travaille ces artistes n'est pas du tout le même. Quelle différence entre la dernière signature récente avec Aya Nakamura et quel travail vous faites pour hier par rapport à celui que vous avez fait avec Zao de Sagazan, par exemple, tu vois? C'est un peu large, hein, mais globalement, pour avoir une idée.
Alors, pour moi, il y a deux cas différents. Il y a le cas de l'artiste. Déjà, tout artiste majeur a été un artiste émergent.
Okay.
Donc, si le moment où on commence à travailler avec l'artiste majeur, on n'a pas été là quand il était émergent, là, c'est une relation différente et c'est une relation qui prend du temps. Parce que il va falloir en tout cas prendre du temps pour gagner la confiance de l'artiste, trouver sa place aussi, et ça va prendre du temps. Par contre, un artiste majeur aujourd'hui qu'on a eu au tout début, au contraire, souvent on garde un lien privilégié, et c'est vers, disons que souvent les artistes, quand ils deviennent majeurs, ils ont plus forcément beaucoup de partenaires autour d'eux qui étaient là au début. Mmh. Donc quand vous faites partie des partenaires qui étaient là au début, ils vont continuer de se tourner vers vous parce que justement vous n'avez pas peur de dire les choses, parce que vous avez connu l'artiste au tout début, donc vous avez pas forcément ce trop grand respect entre guillemets qui vient quand on arrive.
Et en l'occurrence avec Aya Nakamura, elle a déjà une carrière quand vous vous signez avec elle, si je dis pas de bêtises.
On a commencé juste après Comportement, en fait.
C'est tôt, alors.
Donc c'est
cartonne aussi.
Ça cartonne, mais c'est le premier vraiment qui...
Ouais, c'est un DJ à qui je parle régulièrement et qui me dit voilà, il y a un titre sur la piste de danse quand il est pas sur iTunes. Ouais. Et dès que je le mets, la piste de danse est remplie. Je me demande ce que c'est, je note. Et puis c'est comme ça que je rencontre Aya. Donc c'est vraiment au début. Donc on a connu les tout débuts, les premières scènes, les premiers titres qui prennent un petit peu plus difficilement, puis Jaja qui arrive, etc. Donc là on a un lien vraiment sincère et voilà, mais néanmoins notre travail est différent. On va se concentrer sur l'international, par exemple.
Est-ce qu'on peut prendre quelques exemples concrets sur Aya Nakamura? Qu'est-ce qui occupe le plus clair de votre année? C'est le fait justement quand tu dis international, c'est quoi? C'est qu'il y a des reprises de morceaux d'Aya Nakamura à l'international? J'en sais rien. Ouais.
C'est d'aller chercher. On fait beaucoup des remixes. Par exemple, on a géré les négociations, entre autres, avec la maison de disques, mais sur cette reprise de Jaja par Maluma, ouais. Par exemple.
Énorme star du reggaeton.
Voilà, et c'est suite à un placement sur une petite série espagnole. Il a fallu convaincre Aya de dire oui, parce que c'est vrai que le fille était tout petit, et puis ensuite elle a accepté ce placement, et il se trouve que Maluma était chez lui en Colombie, que c'est une série qui cartonne en Colombie, il est tombé sur ce titre, et puis il demande en tout cas à l'entourage d'Aya la possibilité de faire un remix de cette chanson, et du coup ensuite il faut négocier les conditions, et donc on fait l'interface entre l'équipe de Maluma et elle, pour que ça se fasse dans des bonnes conditions et selon un timing qui lui convient et dans des conditions contractuelles qui lui conviennent. Ça va être de gérer, d'aller générer des demandes pour placer sa musique passée et future sur du contenu audiovisuel. Ça va être on va faire plein de choses diverses et variées.
Elle à l'origine, elle vous dit essayez de me placer à droite à gauche, ou en fait elle fait son truc.
Elle est concentrée sur la musique, sur le live, etc.
Elle se dit pas j'ai envie d'être big en Colombie ou de faire des trucs avec des artistes reggaeton, parce que là on est sur de l'artistique vraiment, c'est-à-dire ouvrir ta musique à une population, t'adapter peut-être à un style qui n'est pas forcément le tien, mais qui a quand même des proximités artistiques et tout, on pourrait croire que c'est la volonté de l'artiste de dire « Ouais, j'ai envie de péter Brésil, Argentine, Chili,
j'imagine,
tu vois. »
C'est surtout créer les opportunités, j'imagine. C'est créer les conditions à, et ensuite on voit ce qui se passe, quoi. J'imagine, il y a un peu un truc comme ça.
Ouais, et pour parler de l'Amérique du Sud, par exemple, on a organisé un séminaire à Miami pour elle. Et on a fait venir des compositeurs, des producteurs d'Amérique latine pour qu'elle aille prendre un peu de la vibe.
Quand tu parles d'un séminaire, c'est-à-dire elle va se mettre en studio avec plein de producteurs que vous faites venir et ils travaillent ensemble, ils voient ce que ça donne.
Exactement,
ça
exactement. Et d'abord, on lui présente un casting en lui disant on peut te présenter ce producteur-là, il a fait ça.
C'est vous qui financez ce séminaire ?
C'est nous qui finançons ce séminaire, ouais.
On avance ?
Non. Non, c'est nous qui finançons. Mais voilà. On l'a fait à Londres pour elle récemment. Le dernier, c'était à Londres. Et une partie des titres de sa réédition, là, de son dernier album, sont issus de ce séminaire à Londres. Donc voilà, c'est très varié. Pour citer quelque chose de complètement différent qui transite aussi par l'éditeur, on a travaillé à la fabrication d'un petit livre qui s'appelle Mon premier Aya Nakamura, okay. Dans lequel c'est pour les enfants qui ont entre 1 et 2 ans. Et c'est un petit livre à puce, et l'enfant met son doigt, et au lieu que ça lui chante Au clair de la lune, ça lui chante Pookie. Et avec le texte, alors évidemment, on a bien fait attention ensemble au titre. Mais voilà.
En cas de chassa, tu donnes ça.
En tout cas, à quelle partie du texte on mettait, etc. Mais voilà, elle était ravie de ça. C'est-à-dire que c'est une manière.
C'est vous qui êtes allé chercher l'éditeur du bouquin,
ouais, ou
c'est...
Bien sûr. C'est nous qui sommes allés chercher l'éditeur du bouquin, qui lui avons présenté l'idée.
C'est de la vraie édition. Ouais. Bravo.
On a explosé les ventes. C'est-à-dire qu'en une semaine, il n'y avait plus rien dans les Fnac, quoi. C'était impossible de se procurer ce. Et pourtant, elle a même pas fait la promotion de ça. Elle a même pas fait une story. Mais il y a des gens chez eux qui ont fait évidemment des stories marrantes, etc. Et la promotion s'est faite toute seule. Je veux dire, notre quotidien, c'est pas de faire des livres pour les enfants, mais c'est pour vous expliquer.
C'est pour maximiser en fait l'exploitation de l'œuvre de l'artiste.
Ouais, c'est
canaux,
trouver des moyens d'exploiter les œuvres. On a fait un songbook avec les œuvres d'Aya pour que dans les magasins de partitions, quelqu'un qui se met au piano ou à la guitare
puisse reprendre
chez lui, ou que dans les écoles de musique on puisse enseigner aussi aux petits enfants qui font du piano, etc.
Donc vous éditez encore des partitions en tant qu'éditeur musical.
Voilà, j'ai pas rebondi tout à l'heure, mais en fait on va faire encore des partitions dans deux cas. Le premier cas, c'est celui-là, c'est-à-dire que quand on fait un songbook ou même il y a des méthodes de piano maintenant en ligne. Où en fait, suivant votre niveau, il y a des tutos, etc. Et donc ça, c'est les droits qu'on contrôle nous. En tout cas, c'est nous qui allons chercher ça. Ça, c'est le premier cas dans lequel on fait une partition. Et le deuxième cas, c'est quand il y a un conflit. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui nous dit on m'a repris mon œuvre sans me demander mon autorisation, bah en fait, on va faire une analyse comparative. Et là, on va appeler des gens qui vont nous faire un relevé de partition, et on va comparer les deux partitions, les mettre à la même tonalité, voir si effectivement il y a un plagiat ou pas. Et voilà. Mais sinon, on fait plus systématiquement les partitions, comme c'était le cas il y a encore quelques années.
Tu sais, il y a un truc qu'on dit, Mathieu, aussi sur le métier d'éditeur, c'est que l'édition, de manière générale, c'est l'un des milieux dans la musique où il y a le plus d'argent. Globalement, on en parlait ensemble aussi, tu disais, parfois on pense que c'est la pouleuse d'or. Et toi, t'as envie tu penses que c'est pas vraiment le cas ?
Je pense que c'est pas vraiment le cas. Et je vais m'expliquer. Le mieux, c'est de se replacer, comme toujours, du point de vue de l'artiste. Si vous produisez votre musique, et on peut prendre l'exemple d'un très gros succès. Un titre qui, en France, fait double disque de diamant.
C'est quoi, pour donner un ordre d'idée, un morceau qui a fait ça
Je ne sais pas si j'en ai un, j'en ai qu'on fait plus, quand je dis j'en ai, c'est pas forcément chez Warner Chappell, okay. Mais en tête, par exemple, le Booba SDM, par exemple, je pense que c'est deux fois ça, donc si on prend un titre qui a fait quand même double...
Sans achat de stream, tu veux dire
j'irai pas sur ce terrain-là.
C'était gratuit. C'était gratuit.
Mais en tout cas, un single qui fait double diamant. Si vous placez du point de vue master, si vous êtes distribué par une major, ça va générer. Tous ces deals-là sont confidentiels et puis je les connais même pas. Mais en tout cas, je sais que l'ordre d'idée, c'est entre 400 et 500 000 euros de revenus. Sur lesquels le distributeur va prendre sa commission, puis ensuite vous reversez ce qui reste.
Combien de streams on a dit?
Pour 100 millions.
100 millions.
Voilà. Okay. Et c'est un petit peu moins si vous êtes distribué par un indépendant, puisque les conditions sont
les négos sont différents.
Voilà, sont un petit peu plus faibles en tout cas pour les distributeurs indépendants que pour les distributeurs major. Mmh. Si vous êtes côté master, donc ça vous donne une idée du revenu sur lequel vous devez vous-même rémunérer l'artiste.
Ouais.
Si vous êtes maintenant l'éditeur plein d'une chanson qui fait 100 millions de streams.
Donc t'es quoi, t'es sur 60-40 en éditeur plein ?
Donc on est sur le 60-40.
Ouais.
100% des revenus éditoriaux, donc il faut quand même éditer le compositeur, l'auteur, et les éditer tous en édition pleine.
Mmh.
Les revenus, c'est 40 000 euros.
Pour les 100 millions dont on parlait ?
C'est 10 fois moins que...
Voilà. Alors, c'est différent parce que vous aurez que la part éditoriale. Enfin, la SACEM va payer en direct aux auteurs-compositeurs la part auteur. Donc, ces revenus-là, si vous êtes 100% éditeur, c'est de la marge pour vous. Mmh. Vous allez garder 100% de ce revenu-là. Mais du coup, si vous ne contrôlez que, par exemple, dans le rap, si vous n'éditez que le rappeur ou que le compositeur, vous pouvez diviser par deux.
Mmh.
Si vous êtes en coédition, vous redivisez par deux. Et donc, vous avez un ordre d'idée de ce que rapporte le streaming pour un éditeur.
Mais après, il y a les autres sources de revenus, la synchro, etc. Est-ce que, mis bout à bout, est-ce que l'édition n'est pas quand même un des milieux qui s'en sort mieux que le reste ?
Alors, l'édition est le domaine, en tout cas, qui a le moins souffert, par exemple, de la crise du début des années 2000. C'est-à-dire que évidemment les maisons de disques ont été extrêmement touchées de plein fouet. Comme l'édition, il y a des revenus qui sont liés au live, des revenus qui sont liés à la radio, à la télé, tout ça s'est pas écroulé en même temps, et donc l'édition a été moins touchée par cette crise-là, et en tout cas on a des revenus qui sont plus diversifiés. Mais
c'est presque un revenu passif même en fait, puisque c'est pas lié à l'achat physique, en tout cas du produit musical. C'est juste, il suffit qu'il soit diffusé en fait, et ça génère des droits.
Ouais, un revenu passif, ça sous-entendrait que on attend que le revenu tombe.
J'aime pas
cet adjectif, mais oui, en tout cas c'est un revenu qui est moins immédiat et moins direct. Encore on en parlait,
mais du coup qui est moins soumis aux aléas du marché, puisqu'en fait il est tellement diversifié qu'il y a toujours moyen de réussir à passer une vague un peu compliquée.
Il est peut-être plus stable, en tout cas. Voilà. Mais si on prend à l'échelle de la France, j'ai pas les chiffres globaux, mais en France, l'industrie du live, si vous prenez l'année 2024, c'est, si vous cumulez toutes les ventes de billets en France, ça génère environ 1,6 milliard. L'ensemble de l'industrie du master, donc côté disque, c'est 1 milliard.
Okay.
Les revenus de l'édition, c'est un peu plus de 600 millions.
Okay. Est-ce qu'il y a... c'est assez clair ce que tu dis. Effectivement, on se dit que l'édition, c'est pas ce qui rapporte le plus. Est-ce que, par contre, les intermédiaires, les pourcentages qu'on se partage, etc., font que, typiquement, pour les éditeurs, en fait, c'est quand même plus intéressant. Je sais pas, peut-être que la maison de disques, en fait, oui, tu vois, il est plus important, le revenu général, mais en fait, vu le pourcentage qu'elle prend, finalement, elle s'enrichit pas tant que ça.
Non, mais c'est surtout que l'édition, tu touches sur l'intégralité des segments que tu as identifiés. Live, master et édition.
Alors que mais ça arrive à 600 000 au total, 600 millions pardon.
Voilà, le revenu cumulé, c'est le revenu cumulé après les marges, pour le coup j'ai pas cette info, c'est trop technique.
C'est intéressant parce que t'étais à 10 fois moins sur 100 millions de streams que le master, mais t'es à 2 fois moins sur le revenu global, donc il y a des leviers,
les autres sources effectivement.
Ouais, ça montre l'importance du live
synchro,
et du coup je pense que ça nous donne un rôle aussi quand t'es éditeur. t'es obligé de connaître le live, puisque si ton artiste remplit des grosses salles, tu vas générer des droits d'édition. T'es obligé de connaître les médias, t'es obligé de connaître la radio et la télé, parce que si t'as un tube, en tout cas en flux, en radio, en télé, tu vas générer des droits d'édition. T'es obligé de connaître le stream aussi, t'es obligé de... Donc en fait, c'est un métier qui te force quelque part à épauler l'artiste dans l'ensemble des moyens de diffusion de sa musique.
Mais alors pourquoi ça? Parce que moi j'ai déjà entendu ce discours, notamment de gens plutôt côté label, justement, plutôt côté master, en disant il faut absolument qu'on développe l'édition parce que c'est comme ça qu'on arrivera à se retrouver à l'équilibre et à faire un peu d'argent, quoi. Et pourquoi ils ont cette vision? Tu penses que c'est erroné, cette vision?
Non, je pense que c'est pas erroné, mais je pense que c'est une vision de label, donc de gens qui investissent déjà dans le master et qui veulent être éditeurs passifs.
Bah ouais.
C'est-à-dire qu'évidemment, si t'investis pas dans l'édition, ce n'est qu'une source de revenus. Mmh. Et comme de toute façon, tu investis côté master, côté label, tu payes du marketing, tu payes de la promo, quelque part, tu peux considérer que tu vas générer des droits d'édition toi-même en générant des exploitations, etc. Nous, on n'est pas des éditeurs passifs, on peut pas l'être. On est obligé de mettre de l'argent dans les contrats consignes et de verser des avances, d'investir. On ne recoupe pas tout ce qu'on investit. On investit aussi quand on achète du matériel, quand on paye du marketing, quand on paye de la promo. C'est de l'argent qu'on ne recoupe pas, en fait, qui vient rogner nos marges. Et donc voilà. Mais j'ai pas l'info en tout cas exacte sur les marges, mais en tout cas c'est vraiment une fausse idée, l'idée selon laquelle...
Tu l'entends toi aussi parfois, ça?
En tout cas, ouais, dans l'inconscient, j'ai l'impression qu'il y a un côté où... Et je pense que ça vient d'un historique, peut-être, de labels qui étaient eux-mêmes éditeurs. C'est-à-dire que nous, on se rend compte que, par exemple, une partie de notre catalogue, c'est les éditions du label Barclay, qui aujourd'hui, les masters font partie d'Universal. Et à l'époque, le label, en gros, il prenait les éditions des artistes quand ils venaient enregistrer dans son studio. Et donc, c'était une source de revenus à côté pour un label, quoi. Donc, quand vous vous placez du point de vue du label, les éditions, il peut y avoir une impression que c'est facile, etc. En réalité, ça dépend de plein de facteurs. Et en économie globale, c'est la plus petite.
Et il y a même un phénomène parallèle à tout ça. Qui marche surtout avec des énormes artistes. Je crois que ça a été le cas de Bowie, par exemple, de gens qui, souvent vers la fin de vie, vendent leur catalogue.
Ouais.
Justement. Ouais. Tous leurs droits. Mmh. Ça devient en fait du patrimoine, comme un patrimoine immobilier, quasiment.
Steve Jobs avait acheté le catalogue des Beatles, comme ça.
Et ça, c'est un truc fou aussi.
Ouais, bah ça, c'est un autre phénomène actuel qui a été amplifié avec le Covid. Puisque des grands artistes ont subitement arrêté de tourner. Et donc ils ont vu leur revenu fondre. Voilà, c'est une période où l'argent ne valait rien, c'est-à-dire que les taux étaient très faibles, et donc des fonds, notamment des fonds spéculatifs, ont commencé à proposer des offres assez hallucinantes, notamment pour des catalogues master ou des catalogues éditoriaux, aussi parce que c'est des valeurs stables. Et donc on fait des offres, donc on a vu une...
On joue à la bourse avec les œuvres d'une certaine manière.
Un Space Oddity synchronisé sur 12 pubs pour des SUV plus 1 milliard de films et tout. Enfin, c'est jackpot.
C'est vérifié pour Bowie, mais je crois qu'il était dans le cas.
En l'occurrence, Bowie, je connais bien le cas puisque c'est Warner Chappell qui a racheté son catalogue éditorial.
Donc il avait bien racheté.
Donc on a racheté les éditions. Je me rappelle plus de l'année, mais en tout cas c'est assez récent. Et on a non, mais surtout c'est pas une opération qui vient toute seule, quoi. C'est-à-dire qu'on a fait un travail énorme. C'était un catalogue qui était indépendant, j'ai sous-édité par des indépendants. On n'a pas parlé de la sous-édition non plus, mais il avait ses propres éditions gérées par des conseillers sous-édité par des indépendants dans chaque territoire qui collectaient les droits, mais qui étaient un peu passifs.
Oui, sous-édition, c'est quand un éditeur fait appel à des éditeurs locaux pour travailler sur le territoire.
Voilà. Et d'un coup, c'est Warner Chappell qui s'est retrouvé à être éditeur des œuvres dans le monde entier avec évidemment un fonds important qui a été alloué à l'achat de ce catalogue et qui ne pouvait être rentable qu'avec une forte croissance des revenus dans les années qui suivaient. Donc non seulement tout cas, ça a entraîné des exploitations qui ne se faisaient pas et qui ne se seraient pas faites sans cette acquisition. Et ça a fait croître aussi les autres revenus, le droit à l'image. Donc parfois, il y a du bon, en tout cas, dans une cession de catalogue, puisque, en fait, ça force l'acquéreur.
Quand j'entends du Metallica dans une pub pour un SUV... C'est sûrement qu'il y a un éditeur quelque part qui a payé le catalogue et qui se dit putain, il faut le rentabiliser.
Oui, et puis et non,
et faire
puis,
vivre et, le morceau.
Et voilà, et puis c'est Metallica qui a envie. Et qui a envie.
Non, parce que là, c'était une reprise genre susurrée, tu sais.
Ah ouais,
Neil Smathers en mode.
Mais même une reprise, ça entraîne des droits d'auteur. C'est-à-dire que l'éditeur qui a racheté le catalogue éditorial, il va percevoir les droits éditoriaux, mais n'oubliez pas le 60-40. 60% des droits, c'est des droits d'auteur, et ces droits-là, ça va revient au créateur.
Donc c'est vraiment, choisissez bien votre éditeur. Quoi.
C'est clair. Il y a un gros point qu'on n'a pas encore abordé, peut-être que ce sera le dernier d'ailleurs, on va voir un peu comment ça se passe en termes de temps. C'est sur la musique de librairie, la musique à l'image, etc. Tu as évoqué effectivement qu'il y avait... Alors, parce qu'il y a la synchronisation qui consiste à des morceaux qui ont été commercialisés de manière classique, sur Spotify, à la radio, machin, etc. On essaye de les caler sur une œuvre audiovisuelle. Ok, ça c'est un classique. Et puis il y a vraiment tout un pan assez différent, moins connu du grand public, de production de musique spécifiquement pour que ce soit de la musique à l'image. Et ça, vous le faites avec Warner Chappell Production Music. Est-ce que tu peux nous parler rapidement juste de la spécificité de ce business et quel est son intérêt? Pourquoi vous faites ça?
Alors déjà, je reviens une seconde sur la synchro, ouais. Parce que pour nous, c'est une part très importante de ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est quasiment 20% de nos revenus.
Ah ouais.
C'est les placements sur des films, des documentaires et des publicités. Donc ça, c'est pas, on a vraiment une force de vente proactive qui va aller faire écouter les chansons de notre catalogue à des superviseurs musicaux, des producteurs de films, des agences de publicité. Donc on est très très actif dans ce domaine-là. Et ça, c'est un vrai moyen de donner des secondes vies aux œuvres, voire de pousser des œuvres inconnues en développement. Quand on réussit à placer sur une publicité et que le film est bien, évidemment, faut veiller à ce qu'on fait. On cherche pas à tout prix à avoir des placements. On cherche à avoir des placements qualitatifs. De toute façon, on peut pas faire ces placements sans l'accord de l'artiste. Donc, il faut que ça soit cohérent et que ça vaille.
Ça veut dire que Billy Paul. Pour Sheba, il était d'accord pour que Me and Mrs. Jones...
Il adore peut-être les chats.
Okay.
Est-ce qu'il est encore vivant, d'ailleurs, Billy?
Non, il est mort, mais c'est vivant qu'on l'a...
C'est les ayants droit adorent les chats. Non,
voilà, c'est les ayants droit qui mais en tout cas, c'est impossible d'avoir une musique de sur une publicité sans que les ayants droit ou...
Parce que le droit moral s'applique aux ayants droit, c'est-à-dire même une fois le mec mort...
Oui, mais le droit moral s'applique aux ayants droit, mais par contre, le droit tout court, pour qu'il s'applique dans une autre juridiction, c'est un merdier.
C'est-à-dire, pardon.
Bah, c'est-à-dire que ça se trouve, Billy Paul, lui, aux États-Unis, jamais de la vie, il aurait mis sa musique sur un paquet de croquettes. Mais par contre, en France, tu vois, ou au Japon, tu sais, quand tu vois.
Tu vas nous dire comment ça se passe.
Tu vois des artistes. Impossible.
Impossible. Tu ne synchronises pas une œuvre sans interroger, au titre du droit moral, les gens qui l'ont créée. Donc, ça, c'est la synchronisation et c'est. Vraiment, c'est une équipe chez moi qui est importante et on fait beaucoup d'efforts pour aller chercher des exploitations et encore une fois parce que c'est une source de revenus importante pour nous.
Cette importance de la synchronisation, elle est liée aussi au fait que la production audiovisuelle a été bouleversée par les Netflix, par toutes les plateformes et compagnie, qu'il y a beaucoup de productions assez accessibles. C'est ça aussi qui a joué sur le fait que ça a pris une grande part dans la musique, la synchro?
Non, pas forcément. Disons qu'on fait plus de synchro qu'avant. On va faire plus de placements, mais c'est des placements qui sont moins bien payés.
Ah.
C'est-à-dire que un placement dans disons que ces plateformes, elles ont permis de multiplier les sources de production, mais les budgets sont plus petits.
Je comprends.
Et donc les budgets pour la musique sont plus petits aussi. Donc en réalité, on fait plus de deals, mais avec des fees moins élevées.
Alors la fee pour la synchro, c'est une chose. Par contre, après, du coup, il y a quand même des revenus perçus une fois que le truc il est tabassé sur tous les réseaux. Vous prenez par exemple, si je prends tu vois Kate Bush avec Stranger Things, à partir du moment où le truc se transforme en trend sur les réseaux sociaux affichent de la pub. S'ils utilisent ce titre là non seulement effectivement Kate Bush, en tout cas son équipe, a reçu un paiement pour le fait de synchroniser sa chanson sur la série Netflix qui est diffusée sans pub, encore que, mais une fois par contre que ça pète sur un réseau social qui reprend la chanson et en plus on interprète.
Est-ce que ça génère des droits encore ?
Bah ouais.
Alors ça génère des droits sur les diffusions. Ça veut dire qu'il y a
le. Y compris sur TikTok, pardon ?
Y compris sur TikTok, ouais, y compris sur TikTok. C'est-à-dire qu'il y a un fee qui est payé pour la synchronisation de la musique sur l'image.
Quand on dit un fee, en fait, c'est un truc payé une fois, un one shot.
Voilà, c'est un montant qui est négocié, justement, et c'est nos équipes qui assurent la négociation de ce fee et qui savent parfaitement le faire. Ça, c'est encore un autre intérêt d'avoir un éditeur et un bon éditeur, c'est que vous serez conseillé pour la négociation des fees lors des placements. Parce qu'évidemment, le but du producteur audiovisuel, c'est de payer le moins cher possible pour avoir la musique. Donc nous, on va valoriser la musique, leur dire la musique, ça vaut pas rien. Vous faites un film publicitaire dont le budget est de 2 millions, ce qui veut dire que vous allez acheter 20 millions d'euros d'espace. Vous devez payer pour la musique. Et vous devez payer, et le montant, ça ne peut pas être 1% du prix de création de votre film. Ça a une valeur. Et voilà, ça c'est la synchronisation. Donc c'est des œuvres qui ne sont pas faites pour être en musique à l'image, qui sont faites par des artistes pour être chantées sur scène, etc. Mmh. Et qui se retrouvent placées... voilà. On a un autre département dans lequel c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que on va aller voir des artistes, on va leur dire faites-nous un album et vous nous pré-autorisez à le placer à l'image. Ok, voilà. Donc c'est-à-dire que dans le contrat, si tant est que le film n'est pas à caractère pornographique ou qu'il n'y a pas de violence excessive, etc., on a d'ores et déjà votre accord pour que ça soit utilisé sur des documentaires, sur des pubs, etc. Et d'ailleurs, voilà la grille de tarifs qui correspondra
dès le départ,
au montant auquel on va le vendre. Quoi.
La typologie de ces artistes, c'est quoi ? C'est des gens qui sont des émergents ou qui sont spécialisés dans la musique à l'image ? Parce que Aya Nakamura, elle ne va pas faire ça demain.
Non, elle ne va pas faire ça demain, mais il y a des gens dont c'est le métier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne font que de la musique à l'image, parfois des anciens artistes, en tout cas des anciens artistes interprètes, qui maintenant veulent faire ça, et du coup, qui ne font que de la musique à l'image, et qui vont être capables de nous faire des albums très différents. Et aussi, on fait appel à des artistes, on fait appel à certains de nos beatmakers, par exemple, pour faire des albums vraiment qui sonnent bien, et qui soient vraiment crédibles, pour aller illustrer, j'en sais rien, du sport, par exemple, qui demande beaucoup de rap. On va faire des albums d'instru. Vraiment bien mixé, bien masterisé avec des gens qui sont des noms, qui ont produit vraiment pour des rappeurs connus. Et eux, ça va être une autre rémunération que leur rémunération habituelle. Et ils vont retrouver leur musique dans, j'en sais rien, à Téléfoot dans un documentaire.
Donc ça, c'est vraiment de la library music, en fait.
Exactement.
Pour le coup.
Ouais, c'est une forme de... On appelle ça de la production music. Librairie musicale, c'est connoté un petit peu musique d'ascenseur, etc. Vraiment, aujourd'hui, je vous ferai écouter des albums qu'on sort, c'est d'une grande qualité, vraiment. Il y a des voix, il y a des orchestres, vraiment.
Mais ça a quand même été conçu pour être synchronisé.
En fait, tu me corriges, Mathieu, si je dis une bêtise, mais d'ailleurs, tu nous parleras peut-être de la rémunération de ces artistes, parce que c'est un truc très précis. Mais typiquement, en fait, les productions audiovisuelles, elles savent qu'il y a Warner Chappell Production Music qui fait des trucs, il y a un catalogue très précis, ou Universal a son catalogue, enfin, plein de sociétés ont leur catalogue, et elles vont piocher spécifiquement dans ce catalogue. C'est un accès privilégié, entre guillemets, pour ce type de musique de la part des producteurs audiovisuels, en fait.
Tout à fait, et on leur donne accès directement à notre catalogue. Pour certains, c'est même lié à leur logiciel de montage. Donc, c'est-à-dire que les monteurs, ils ont dans leur logiciel première accès à notre base de son. Et donc, du coup, ils vont pouvoir tester à l'image des choses. Et surtout, ils savent que ce qu'ils vont tester, ils pourront clearer. C'est-à-dire que le gros risque, c'est que... Enfin, il n'y a rien de pire pour un réalisateur que de s'attacher à une musique.
En fait, il peut pas
l'utiliser. Et en fait, l'artiste dit non. Et voilà. Donc, les films, en général, ils sont faits de score, de musique composée spécialement pour, de librairie musicale et de synchro. Mais les synchros, bah, évidemment, il faut les négocier avant, etc. Et ça coûte cher. Et je vous expliquais pourquoi on voulait le valoriser. Et nous, on va dans le sens des artistes aussi. Et n'oubliez pas la clé de répartition du début. Donc quand nous, on va chercher un fee, bah, souvent, on en prend 20%. Et les 80%, ils bénéficient à l'artiste.
Sur ces artistes qui signent avec vous ce contrat spécifiquement pour la musique à l'image, j'imagine quand même que la rémunération est moins importante que sur un contrat commercial qui va rencontrer un peu, enfin une chanson qui est faite pour passer à la tu vois, c'est un travail complètement différent. En fait, moi je connais pas les arcanes du truc, par contre je connais des gens qui font ça, et souvent c'est des profils de gens, en fait c'est pour mettre soit du beurre dans les épinards, soit, enfin tu vois, c'est des trucs en plus. À une époque on parlait de musicomètre un peu, tu sais, ces gens qui composent beaucoup, il y a un peu moins d'investissement personnel, artistique, etc. Par contre, je suis un bon musicien, je suis un bon exécutant, et j'en produis plein, ça me rapporte un peu de thunes chaque mois, voilà quoi. Enfin, c'est un peu ça l'idée aussi de ces profils, ou c'est...
Bah, disons que il y a de tout. Franchement, il y a de tout. Nous, on a beaucoup de compositeurs qui sont ravis de travailler à côté pour ce genre d'album. Et après, bah, la rémunération, c'est un fee pour acheter le master que j'ai produit chez moi. Et ensuite, il faut que ça soit placé pour que ça génère des droits, comme toujours. Donc, mais par contre, ça peut se retrouver. Enfin, il y a des génériques d'émissions télé, de grandes émissions télé mondiales qui ont été faits comme ça dans une chambre, qui sont issus de ces albums-là. Donc, ça peut être très rémunérateur, comme ça peut être un peu plus précaire en fonction de l'endroit dans lequel vous le placez, puis en fonction de est-ce que vous avez le bon hook.
On peut baser, en tant qu'artiste, en tant que musicien, baser son économie sur ce modèle-là, par exemple, faire que ça, ou c'est compliqué?
Oui, il y a des compositeurs qui ne font que ça. Il y a des compositeurs qui ne font que ça.
En passant par Warner, par exemple, tu vas avoir, où il va falloir multiplier un peu les trucs à droite à gauche.
Nous, on a un volume, on va produire 40 albums par an. C'est pas suffisant pour permettre à quelqu'un de... Ou alors, il faudrait être sur les 40, mais en général, on vient chercher des gens très différents, parce qu'on ne peut pas être aussi bon dans la bossa que dans la production de rap. Mais en tout cas, non, en général, c'est des gens qui vont pas nous amener de la musique qu'à nous. En tout cas, ils ont plusieurs librairies et voilà.
Mais alors, moi, j'ai une question là-dessus, hein, un peu reliée aussi, c'est que donc, cette production musique, cette production musique, cette library musique, c'est de la musique au maître qui est faite pour illustrer des trucs, mais ça veut dire que la personne n'écoute pas le morceau parce qu'il veut entendre le morceau, c'est juste qu'il regarde un truc et il se trouve que c'est ce morceau qui illustre. On est en 2026, il y a l'intelligence artificielle qui peut générer de la musique au décamètre, non, parce que c'est plus petit qu'un kilomètre, donc au mégamètre. Est-ce que pour vous c'est un challenge ce truc-là, parce que on sait que les LLM s'entraînent sur des jeux de données, que les données, généralement, c'est de la musique qui est absolument commerciale et que donc, normalement, il y a des droits à payer. On sait que les OpenAI et autres, Claude, etc., n'ont jamais payé les droits, c'est du vol.
T'as vu qu'il y a eu même une actu récemment, Warner a rejoint d'autres maisons de disques et d'autres éditeurs qui ont attaqué Anthropic, qui est derrière l'IA Claude, en disant « Vous utilisez de manière frauduleuse de la musique pour alimenter votre IA ».
C'est-à-dire que comment, puisque vous, votre taf, c'est aussi de vérifier, donc de protéger les artistes en vérifiant qu'on n'utilise pas leur œuvre à l'insu de leur plein gré, en gros. Puisque les IA s'inspirent de musique existante, forcément, vous devez retrouver des cues un petit peu dans un milliard de trucs qui sortent. Et en plus, qui vraiment, pour le coup, enfin, je crois que de la même manière qu'en 2015, sur l'année 2015, on a passé le cap de... on a pris plus de photos en 2015 que depuis la création de la photographie. Je pense que là, aujourd'hui, en 2026, on a produit plus de musique générée par intelligence artificielle que de production musicale sur la même année générée par des êtres humains. Est-ce que vous, c'est un truc que vous gardez en tête? Parce que ça veut dire que toute cette musique qui serait utilisée potentiellement échapperait, alors qu'elle est lourdement inspirée, mais elle échapperait à la juste rémunération des droits aux ayants droit, justement. Comment est-ce que vous abordez ce truc-là, vous ?
Bah, on déjà ça entraîne de l'appréhension, évidemment, d'avoir cette perspective, d'avoir des milliers d'œuvres qui débarqueraient voilà, en tout cas qui seraient créées par des robots, évidemment. Mais en même temps, Il y a, moi, je pense vraiment qu'il y a une question de propriété et de droit. Et voilà, si des producteurs de films viennent prendre dans notre librairie des œuvres, ils savent que ces œuvres, ils ne vont pas se faire attaquer demain parce qu'ils les ont utilisées, etc. Toutes les œuvres issues de l'intelligence artificielle, c'est des œuvres qui sont incertaines. On ne sait pas si demain, le film sera toujours...
Oui, mais alors... Il y a un problème, c'est que dans cette économie qui est liée à la Startup Nation, le motto, vraiment, c'est « break things ». « Go fast and break things ». Et on s'excusera plus tard. On l'a vu surtout, c'est-à-dire qu'on a été envahi de vélos en libre-service et de trottinettes avant que la loi décide de vraiment commencer à taper du poing sur la table en disant « maintenant, vous arrêtez vos conneries ». Je veux dire, ça fait partie de la culture de la Silicon Valley. Or, c'est la Silicon Valley qui crée ces outils. Donc, eux, leur but à eux, c'est d'abord « on bousille tout et on s'excusera plus tard ». Et du coup, moi, ma question, c'est est-ce que, de votre côté, vous vous armez aussi, technologiquement parlant, par exemple, pour être capable de contrer ce truc-là ? Je ne sais pas, avoir des robots qui sont capables d'aller chercher... On le voit, la musique identifiée, maintenant, sur YouTube, tu passes un bout de vidéo YouTube sans le son, et juste à l'image, déjà, ils disaient, ça, c'est une vidéo de chez nous, et te strike, tu vois.
T'es démonétisé, en tout cas.
Donc, je me dis, vous devez avoir ce genre d'outils aussi pour faciliter la détection et...
Alors, tu me poses des questions sur une partie qui est gérée par le groupe. Moi, je suis une filiale française, et donc cette partie-là, j'ai pas 100% des clés pour te répondre. Mais ce que je peux te dire, c'est que on se bat aux côtés de la SACEM pour que demain, l'intelligence artificielle, ça soit fait proprement. C'est-à-dire que si demain, on a des bases qui sont clean et des structures qui acceptent d'être transparentes sur les œuvres qui les ont entraînées, je vois dans l'intelligence artificielle une opportunité de donner des secondes vies à nos œuvres. Exemple qui est arrivé récemment, on est gestionnaire du catalogue de Stromae il y a une IA qui a réalisé une cover de Papa Outé. Il se trouve que c'est une cover qu'elle est fidèle à l'original,
mais qu'elle est identifiable, ouais.
Qu'elle est identifiable, qu'elle a été déclarée comme une cover, et donc pour nous éditeurs, ou en tout cas plutôt gestionnaires éditoriaux, puisque Stromae est son propre éditeur et on est gestionnaire éditorial de.
Parce qu'il y a des contrats où tu peux en fait donner la gestion. Bref.
Voilà, lui reste éditeur et nous on administre son catalogue. Donc c'est voilà, et, en tout cas. C'est quelque part, ça a été une manière de donner une seconde vie à cette œuvre, en tout cas, et de la faire découvrir. Il y a des gens qui ont découvert Papa Outé par cette version, qui ne connaissaient pas l'original. Et du coup, on a vu un boost des streams sur l'original aussi. Voilà, donc à partir du moment où c'est fait en étant déclaré, etc.
C'est par qui ça a été déclaré, vu que ça a été produit par une IA? Est-ce qu'il y a des gens derrière qui déclarent le fait que c'est une reprise, ou c'est comment?
En l'occurrence, là, ils ont été transparents sur le fait que c'était une reprise. Et puis même s'ils l'avaient pas été, on a été très vite alertés. Puisque comme l'œuvre elle a buzzé, des maisons de disques s'y sont intéressées tout de suite, puisque ça a clignoté dans certains radars. Et donc du coup, il a été appelé. Et
puis là, c'est assez grillé, quoi. Les titres, c'est les mêmes paroles, là, c'est juste qu'ils ont changé la tonalité et tout.
Mais... C'est vraiment une reprise, mais demain, si on a une...
Grosse inspi.
En tout cas, si on arrive dans un monde où nos catalogues sont mis à disposition des structures d'intelligence artificielle pour que des gens fassent des nouvelles œuvres à partir des œuvres de notre catalogue, et qu'on est capable de savoir qu'il y a un petit bout de cette œuvre-là, un petit bout de cette œuvre-là, un petit bout de cette œuvre-là dans cette nouvelle œuvre, et qu'on trouve une répartition, ça sera comme un sample. Et alors, on aura un vrai moyen d'aller donner des secondes, des troisièmes, des quatrièmes vies à nos œuvres.
Le but, ça serait de faire comme avec Premiere, enfin Adobe, qui a accès, où les monteurs ont accès directement à votre catalogue, c'est de dire, finalement, on licencie notre musique pour qu'elle puisse être exploitée par OpenAI.
Sous réserve que ça soit transparent. Et voilà.
Ce qui se fait déjà, pardon, juste, tu connais peut-être un peu mieux ça. Je sais qu'il y a eu des deals récemment de grosses maisons de disques.
Ouais, c'était Universal, je crois.
Avec des boîtes qui éditent de l'IA, etc. Et pour en fait, juste, par principe, ils vont pas dire on est contre l'IA, c'est pas votre intérêt, entre guillemets. Oui, s'il y a de l'argent, entre guillemets, voilà, c'est votre métier. S'il y a moyen de générer des trucs, etc., pour les artistes, eh ben, allons-y. C'est juste, par contre, il faut que ce soit hyper transparent, encadré, voilà, effectivement.
Voilà. Ce qui est pas acceptable.
Donc, oui, donner toute notre musique à l'IA, mais payez-nous.
Ce qui est pas acceptable, c'est que ces IA ont pu s'entraîner dans l'illégalité en amont,
avec des morceaux pirates parfois.
Voilà, piratés. Et ça c'est pas acceptable. Il faut lutter contre ça. Et tu as raison. Voilà, la stratégie de ces sociétés, c'est de faire et puis ensuite de régler les conflits après. Il faut être très dur dans la réaction juridique qu'il faut leur donner, que ce soit de la part de la SACEM ou de la part de structures d'édition comme nous, pour arriver à quelque chose de transparent. Et voilà.
Moi, je trouve, je ne sais pas Mathieu ce que tu en penses, mais la musique, et comme d'autres formes d'art, elle est très dépendante de sa technique aussi. C'est-à-dire que le cinéma, c'est pareil. Le jeu vidéo, n'en parlons pas. Il est né de la technique. Tu vois, c'est encore un autre truc différent, etc. La photographie. Etc. Et en fait, ça fait partie de beaucoup de formes d'art. Et même les trucs plus anciens, sans le numérique, sans le robotique. Même d'une certaine manière, faire des instruments, c'est de la technique aussi, en fait. Et l'évolution des techniques a fait qu'on a fait des instruments différents, qu'on a donc créé des chansons différentes à partir de ces instruments, des sons différents. Et donc, en fait, s'adapter sans cesse. Alors, ça s'est démultiplié, c'est plus difficile. C'est des vrais défis aujourd'hui, t'as raison. Mais ce que je veux dire, c'est que se heurter à ces problèmes. Et surtout, c'est normal. La technique est liée à l'art. On produit de l'art aussi avec des moyens techniques, des outils, etc. La question, c'est comment on le fait de manière plus ou moins vertueuse, au dépend de qui, machin, etc.
Avec une vision
questions.
Quand même à moyen long terme et pas un truc solutionniste là, genre, hey, vas-y, on va régler le problème, on va signer des contrats, tu vois.
Disant ça, je dis pas que l'IA, c'est génial, hein, mais...
Et l'art s'adapte toujours à l'époque. Je parlais avec un jeune peintre qui me rappelait que la photographie est arrivée.
Oui, les peintres étaient.
Et que ça a mis en danger un certain nombre de peintres et ça a fait naître l'impressionnisme. C'est-à-dire que ça ne servait plus à rien de peindre la réalité, puisqu'en fait la photo permettait de la figer. Et que du coup, ça a fait naître une autre forme d'art où on cherchait plus à peindre la réalité telle qu'elle était, mais à travers la lumière, etc.
Ça fait changer des corps de métier.
Et donc le jour où n'importe qui chez soi pourra faire une production énorme, etc. Et ben peut-être que on va revenir à des guitares voix, et voilà, il y aura toujours quelque chose. Et moi je crois dans les chansons, dans l'art, et ça, voilà, il y aura toujours,
c'est vrai,
il y aura toujours une issue.
Même si je pense que c'est un beau message même pour terminer l'émission, même si, rappelons-le, ça veut pas dire qu'on doit tout accepter, ça veut dire qu'il faut encadrer à fond aussi, etc. L'IA par exemple, je pense qu'il y a beaucoup plus de trucs aspect néfaste que positif, je pense, actuellement. Mais pour autant, est-ce qu'on peut complètement le dire, on interdit? Non, il va falloir trouver un moyen.
Il faut légiférer, il faut encadrer. C'est le problème.
Mathieu, pour terminer sur une note positive, allez, dis-nous une ou deux fiertés d'accomplissement dans ton métier sur ces 20 ans avec Warner Chappell Music. Des trucs où tu t'es dit, putain, là j'ai eu un rôle, qui soit vis-à-vis d'un artiste, vis-à-vis même de la société, j'en sais rien, auquel tu dis.
Bon courage, hein, parce qu'on a lu le CV quand même.
Ouais, j'ai fait un truc bien, je suis content de moi.
Oh, quel. Il y en a plusieurs.
Le prenez pas mal, hein, ceux qui ne seraient pas cités, c'est pas grave.
Non, mais il y en a plusieurs, mais bah, moi, ce qui me rend le plus fier, c'est les rencontres avec des jeunes artistes. Et d'être là au début et d'aider quelqu'un à croire en son projet. Je peux citer un exemple qui est pas encore confirmé, mais par exemple on travaille depuis un peu plus d'un an avec un jeune auteur compositeur interprète qui s'appelle Teddy Bear, qui est belge. C'est les managers d'Angèle qui me l'ont présenté, et on travaille main dans la main avec eux à son développement et à la construction de son premier album qui va sortir en octobre. Il a fait des premières parties d'Orelsan, d'Alain Souchon, de Benjamin Biolay, de beaucoup, beaucoup d'artistes. Et on en est au moment où c'est le plus excitant. On vient de terminer l'album et on sait que ça sort dans 8 semaines. Et on a un lien très fort. On a travaillé main dans la main sur l'artistique, et chaque première pour lui C'est Les yeux qui brillent et voilà. Et voilà, je ne sais pas du tout s'il rencontrera une audience petite, très importante. Peu importe, en tout cas, il vient de terminer un album dont il est très fier, dont il sera, je pense, encore fier longtemps. Et on est ensemble. Et moi, j'ai les yeux qui brillent comme au premier jour à l'idée de lancer un nouvel artiste, en tout cas de l'épauler, de l'aider à se trouver. Et voilà, donc je citerai cet exemple-là, mais qui n'est que le reflet de plein d'autres exemples où ça s'est passé comme ça par le passé. Et ça me rend très fier. Mmh. Et après, je dirais en deuxième fierté aussi, peut-être le fait d'avoir des équipes soudées. J'ai l'impression d'avoir des gens dans mon équipe qui s'entendent bien, qui restent le soir faire la fête ensemble, etc. Et je trouve que c'est une autre réussite, plus en tant que patron cette fois, mais de réussir à créer une équipe, à fédérer des gens avec des personnalités qui vont bien s'entendre, être soudés. Et voilà, je citerai ces deux fiertés-là.
Eh ben écoute,
c'est beau, il a réussi du coup à ne fâcher personne.
Non, mais en plus, un mot pour les équipes, c'est toujours bien.
Ah, ça fait plaisir.
Et... ça se passe pas toujours bien le travail. Hein. J'espère que ça se passe bien effectivement chez Warner. On a une grande tradition, comme tu le sais, Mathieu, qui est de terminer avec des recommandations musicales. Un morceau. Un de tes classiques, un truc que t'as découvert récemment.
Un truc qui sort dans 8 semaines.
Un truc Warner, si t'as envie. C'est absolument libre de tes choix. On se l'écoute. Un petit extrait, genre 1 minute, 1 minute 30, un truc comme ça, puis on fait chacun ça.
Ok.
T'as déjà une petite idée? Tu veux qu'on commence?
Bah, je veux bien y aller. Non, ouais. En ce moment, c'est vrai qu'à titre perso, j'écoute quand j'écoute de la musique pour moi, ça m'arrive. Ouais. J'ai en ce moment, je replonge dans les années entre 2005 et 2010. Je trouve que c'est des années fantastique sur tous les aspects, dans le rock, la musique électronique.
On a fait un épisode sur la Bloghouse.
Ok.
Tu vois un peu cette...
Ouais, ouais. Tout à fait, complètement. Ouais. Et voilà, et je suis retombé sur un premier album d'un groupe qui s'appelle Cold War Kids. Et qui, je pense que l'album sort en 2006. Je crois que c'est leur premier album, j'en suis pas certain, mais je crois que c'est leur premier album. Et il y a une chanson que je trouve assez fantastique qui s'appelle Hang Me Up to Dry. Et qui pour moi symbolise bien cette époque et voilà, c'est 5 ans après les Strokes, retour du rock et des guitares, et je trouve que eux ils avaient quelque chose de vraiment assez fantastique, et c'est pas un disque qui a vendu des millions, donc la preuve est que c'est pas toujours le nombre d'exemplaires vendus qui fait la qualité la qualité de la musique, mais voilà, je suis assez fan de ce titre.
Et bon, on s'écoute Hang Me Up to Dry, Cold War Kids. Tu vois, je connais pas, je vais découvrir.
Around in the muck.
très bien, ça. Effectivement, ça replonge dans toute une époque. Moi, ça me fait un peu penser au son un peu de, tu sais, Casabian, ce genre de truc, et tout, c'est un peu la même époque, je pense, tu vois.
Ouais, c'est 3 ans après les Raptures.
Ah,
aussi,
ouais.
L'album Echoes.
C'est vrai. Franz Ferdinand aussi arrive à peu près à ce moment-là.
Ouais,
et tout.
C'est ça. Ah. Et c'est vraiment des années incroyables. 2006-2007, en particulier, c'est des années assez folles.
Bon, quand le retour du rock comme ça, alors
ça dépend que de toi.
On guette, en tout cas, non, mais aux États-Unis, en tout cas, il y a quand même Somber qui a été numéro 1 sur Spotify. Somber, qui a été numéro 1 sur Spotify dans le monde, je crois. Et voilà, c'est pas du rock alternatif comme ça, mais en tout cas on voit un retour des guitares, et même dans l'album de DC sur lequel j'ai pas mal travaillé. Voilà,
il a beaucoup questionné d'ailleurs son public initial,
ouais,
il y a un revirement esthétique.
Il a tenté plein de fois, il a, à l'époque avec Peter Punk et tout, il a tenté plein de trucs comme ça.
Ouais. Tout à fait, mais
plus ou moins de réussite, mais
En tout cas, on sent une vague dans le, on va dire, entre le rap et l'indie en ce moment, et avec un retour des guitares, et pour moi on s'apparente en tout cas à des productions.
Pourquoi pas. Non, tu sais quoi, genre Playmo et tout se remet à tourner et tout, tu sais, le néo-métal un peu français comme ça. Bah, on avait reçu évidemment les frères Gitlis de Dave Nancer,
bien sûr.
Ouais, ils continuent à tourner, ils ont fait le Hellfest je crois cette année, tu vois.
Ah ouais. On parlera pas du Hellfest, mais ouais, fine.
Bon, Daz, t'as une idée de ton morceau?
Un projet qui s'appelle Spaceships on the Blade, évidemment de Larry June, sorti en 2022. Entre-temps, il a sorti 157 albums, mais...
Combien de Larry June on aura recommandé dans cette émission?
Franchement, en vrai, pas tant que ça.
Okay.
Lui, c'est un album que je voulais, donc j'ai évidemment chopé en vinyle, mais je l'ai commandé le 10 janvier, je l'ai reçu le 10 juillet, donc bon, ouais, il a fallu attendre un petit peu, les rééditions, etc. Un morceau qui s'appelle For Tonight, avec Larry June en featuring avec Sid, la chanteuse du groupe The Internet,
okay,
qui était le proche d'Hot Future, etc., là, tous ces gens-là, okay. Steve Lacy, tout ça. C'est un morceau très sympathique.
Bon, Spaceships
on the Blade. Écoutez l'album, hein. Je pense que je vais recommander par contre tous les morceaux de cet album, parce que j'ai tellement attendu que...
Ça nous fera la saison. Je lance. Yes, for tonight. Buckle up for the ride. Yeah, what you need, got it right here. Yeah, simple things, know you like. Casually call you mine. Need a thing in your life. Yeah, got some things on your mind. Yeah, down and tell them to me. Looking like something I see on the big screen. Make a nigga wanna jump fresh, drive the GT. Pay attention when she speak to me, cause I fuck with her. Maybe we should go and have lunch sometime round 3. Walked in looking so good, excuse me. Only thing on my mind now is you and me. We do it big, flights overseas. I got you, just let me know what you need. Smile on your face when you rock with me. It feels so good, I don't wanna leave. I keep it 100 cause I care about you. And you still mean a whole lot to me. I'm all yours for tonight. Buckle up for the ride, yeah. What you need, got the right. Yeah, simple things, know you like. Casually call you mine. Need a thing in your life, yeah. Got some things on your mind, yeah. Down and tell them to. There's something about your smile that made me wanna rock with you. And we can go right now. You know I'm tryna rock with you. C'est très bien ça.
Ouais, c'est Larry June. Écoutez tous les albums.
Et je me rends compte que j'ai deux tracks de cet album dans mes titres likés et tout.
Ah ouais, lequel?
J'avais Breakfast in Monaco.
Incroyable.
Ouais, et Corte Madeira.
Et oui. Et toute la prod, c'est Alchemist. Ah non, même pas. Il y a Alchemist pour Breakfast in Monaco, mais après, il y a justement Soudière. Qui a produit.
Ah ouais, Soudière.
Ouais.
Le Frenchie,
et qui fait évidemment un morceau de funk, là, avec Larry June, qui est incroyable.
Trop bien.
J'ai l'impression que ça vient d'Houston, c'est génial. Voilà, écoutez Larry June, c'est de la bonne. Alors toi, ça
oui, et eh bien écoute, je vais mettre un classique.
Ah.
Un classique relativement moderne quand même. Je sais pas ce que c'est. Attends, c'est quelle année? C'est dans les années 90? 96.
Oh.
Et en fait, figure-toi que
Je
vais pas raconter cette expérience trop longuement, mais figure-toi que j'ai connu ma première expérience de DJ il y a pas longtemps.
Ah oui, c'est vrai.
Puisque j'ai fait le DJ au mariage de ma sœur.
Si ça, c'est pas du piston.
Et c'était la première fois de ma vie que je faisais le DJ. Je me suis entraîné pendant un mois avant, j'ai acheté des platines, machin, etc. Avec plus
Est-ce
ou moins
que ta sœur t'a versé une avance ?
Non, j'ai fait ça gratuitement. Et 3 heures de mix, mon gars, quand même.
Ah, pas mal.
Pour une première.
Tu peux rendre les platines après en disant c'est bon.
Avec plus ou moins de réussite. J'ai eu quelques bonnes réussites et j'ai eu des fails absolus. Sur un Aya Nakamura, d'ailleurs, où j'ai vidé la piste de danse. C'était pas le bon moment.
C'était quel morceau ?
Normalement, c'est imparable.
Je sais plus. Et j'ai mis plus tard Jaja, qui a été évidemment. Ça a marché. Mais sur un autre. Copine ? Mais je l'ai mis au mauvais moment.
En général, ça marche bien quand même.
Ouais, mais c'était pas le. Bref. Tu vois, mais j'ai beaucoup appris, j'ai adoré cette expérience. Et y a un morceau qui a bien marché, mais je savais qu'il marcherait bien. J'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à le diffuser. C'est Mark Morrison, Return of the Mac. Classique absolu.
Évidemment.
D'une efficacité totale. Je peux dire qu'entre ça et Hypnotize de Notorious B.I.G.,
bien sûr.
Ça a enflammé. La piste de danse, c'est parti. Imparable comme tube.
Imparable.
Indestructible.
C'est beaucoup trop fort.
Ouais, mais il a fait que ça, Mark Morrison.
C'est vrai.
Salut.
C'est vrai. Et anglais d'ailleurs, c'est pas un américain, je pense.
Bien sûr, ça s'entend que c'est un anglais.
Ouais, bah écoute.
Ah oui.
Et d'origine de la Barbade, je crois.
Oui, ça s'entend aussi.
Daz.
Ouais.
Pour terminer cette émission, on va remercier à nouveau, évidemment. C'était hyper bien, hyper intéressant.
Ouais.
J'ai beaucoup appris, Mathieu Tessier, grâce à ton expérience.
J'ai changé d'avis sur l'industrie musicale, sur certains rôles, en tout cas, que je questionne.
Non, puis j'espère que nos auditeurs aussi ont appris plein de choses, notamment les artistes qui nous écoutent, tu vois, qui sont plus ou moins amateurs ou qui aimeraient se professionnaliser, que ça va les aider.
Envoyez des emails.
D'apprendre
les gars.
Tout ça. Envoyez des emails.
Envoyez des
On l'affiche effectivement, comme tu le disais, le mail de Mathieu directement. Il enverra ses équipes. Et en parlant de nos auditeurs, Dave.
Ah, bah oui.
Tu sais qu'on a mis en place, alors, déjà, sachez, chers auditeurs, si vous êtes encore là, c'est que vous aimez cette émission, parce que là on est à près de 2h30 d'émission.
Ah ouais ?
Ouais, on est à quasiment 2h30.
Ça va.
On a trouvé un petit arrangement depuis maintenant avec François, tout va bien. Et il fait très bien le travail, on le remercie François, qui encore cette année revient effectivement dans l'émission. Et il viendra aussi nous voir un moment, dans un épisode pour discuter, parce que c'est toujours sympa, carrément. Ouais. Il y a plein de talents, François. Et donc, il y a la playlist de nos recommandations, plus de 200 morceaux. Pour l'instant, c'est que sur Spotify, où je sais, plein de fois, il faut qu'on le mette ailleurs et tout. Mais en tout cas, toutes les recommandations depuis quasiment le début de l'émission, vous pouvez les retrouver. Vous mettez ça en playlist, vous mettez en shuffle, tu vois, comme ça, vous découvrez plein de trucs et tout, c'est hyper cool. Et nous avons un SpeakPipe. SpeakPipe, c'est un truc où vous pouvez nous laisser un message répondeur.
C'est un répondeur.
Exactement, directement depuis votre téléphone, par exemple, c'est une page web, ou alors depuis votre ordinateur. Enfin, vraiment, c'est hyper simple. Et nous avons eu un message, figure-toi. Oui, on en a pas beaucoup, c'est pour ça, allez-y, faites-vous plaisir. Et c'est Pierre qui nous a envoyé ce message il y a à peu près un mois. Donc juste avant, c'était juste après le dernier épisode de la saison précédente, tu vois.
D'accord, donc on n'a pas pu longtemps.
Donc on n'a pas pu l'écouter, ouais. Mais on se rattrape en écoutant Pierre tout de suite.
C'est long, Pierre.
Non, okay. 44 secondes.
Oh, ça va.
Ouais.
Allez, Pierre.
Bonjour, c'est Pierre qui vous a découvert le mois dernier et pourtant je suis la mauvaise foi de Daz sur les jeux vidéo, sur la politique et puis sur les disques vinyles depuis quelque temps déjà. Donc, très bonne surprise de découvrir votre podcast avec l'épisode sur et avec Arthur H. J'adore ce que vous faites. Voilà. Donc, je continue à vous écouter la saison prochaine. Et bon courage à vous. Vous êtes des monstres. Vous êtes des tigres. Ouais, à bientôt. Salut.
Salut Pierre.
Merci Pierre.
Là, et, c'est la commu, et vient de la commu d'Azos.
Pas abonné Pierre sur Twitch si c'est pas déjà fait, je veux dire. Voilà, dans le doute.
Monétise pour Daz.
Non, ah, bah, ça fait plaisir.
Bah oui.
Fait plaisir.
Merci beaucoup pour tes encouragements Pierre. Et bah heureux de te compter parmi nous pour cette nouvelle saison.
Et juste avant qu'on se quitte, je voulais vraiment faire un big up parce que j'ai revu ces vidéos et j'ai pleuré de rire. Toutes les vidéos de François sur le synthé modulaire.
Ah ben oui.
Tourné comme une vidéo de formation des années 80 en VHS. Absolument. C'est incroyable. Je vraiment aller sur le compte Instagram de Monte le Son, regarder les stories, elles sont géniales. Bravo. Absolument. François, tiens tigre.
Littéralement. Et bah on se retrouve dans 15 jours et ce sera le cas toute la saison jusqu'à l'été prochain. Un épisode un mercredi sur deux d'Az.
Eh oui, comme d'hab.
On sera là avec des bêtes d'invités toute la saison. Ciao. Merci Mathieu.
Merci.